commence parce que, en fait, le sujet est un peu abstrait. Je vais commencer par vous donner des éléments concrets de réflexion, mais vous reconnaître c'est un sujet un peu abstrait. Le sujet, donc, c'est les kinyanim. Kinyanim, ça veut dire ce qu'on appelle en général cession et acquisition. Par exemple, donc, achat et vente. On appelle donc celui qui achète, on dit qu'il est connaît, il acquiert. Celui qui vend, il maknait, il fait acquérir, il cède quelque chose à l'autre. Le achat et vente, c'est simplement un des exemples possibles de cession et d'acquisition. Ce n'est pas forcément le plus répandu. Le mot kinyan, il vient en fait de la Torah, mais la Torah n'est pas très. On emploie aussi le mot lakachat, prendre, c'est pas tellement précis. On utilise ce mot donc à cause de la pratique de la Mishnah dans Kiddushin. Alors je vais vous résumer un petit peu cette Mishnah. C'est elle qui déploie les principaux modes de ce qu'on appelle kinyan, cession-acquisition. Je veux dire tout de suite, ça couvre énormément de domaines. Il y en a certains qu'on va devoir laisser de côté parce que c'est un peu particulier. Mais je vais vous les énoncer quand même. La Mishnah dans Kiddushin, elle commence par Aisha Nikne. Ça veut dire la femme est acquise. Et on énonce les différents modes par lesquels la femme est acquise. C'est la première Mishnah. Ensuite, on continue, on parle du kinyan, de l'acquisition d'un bébé d'ivri, l'esclave hébreu. Ouais, ou Ama Ivria, la jeune fille, la jeune servante hébreu, etc. Ça continue, l'esclave, ce qu'on appelle l'esclave au sens français, quoi, Evet Kanaani. Puis ensuite, l'acquisition des biens immobiliers, un terrain. L'acquisition des animaux, comment on acquiert les animaux. Et on termine avec l'acquisition de ce qu'on appelle Metal Telim, c'est-à-dire ce qu'on appelle nous les objets donc, qui ne sont pas immobiliers, quoi, les biens mobiliers. Ouais. Voilà, la Mishnah, elle déploie ça. C'est pratiquement tout le premier chapitre de la Mishnah dans Kiddushin. Et c'est tout ça qu'on appelle kinyan. Tout ça. Alors, on va laisser de côté la question du kinyan de la femme, c'est-à-dire de l'épouse, parce qu'il est un peu particulier, il réfère des conditions particulières. Mais il faut se rappeler, disons, les choses dont on parle, elles touchent, disons, à tous ces éléments-là. Là, je vais vous donner quelques exemples pour que vous ayez des bases concrètes des choses dont on va parler. Comment on acquiert, par exemple, un terrain? Supposons que je vais acheter une maison. Terrain, ça veut dire aussi bien une maison que donc le terrain lui-même. Alors, on peut acquérir un terrain, par exemple, par de l'argent, par un contrat, et aussi parce qu'il s'appelle Hazaka. Alors, je vais vous décrire exactement la scène. Donc, supposez que moi, j'ai un terrain à vendre. Ce terrain, je trouve un acheteur. On convient d'une certaine somme. On peut faire maintenant différents types de kinyanim, c'est-à-dire d'actes de transfert de propriété. Premier acte, le plus courant, c'est l'argent. L'argent veut dire l'acheteur verse une certaine somme au vendeur qui accepte la somme en question. À partir de ce moment-là, donc, on considère que le terrain a été vendu, c'est-à-dire la propriété transférée. La Gemara a une expression pour ça, elle dit « Neyachol Arzorbo », on ne peut pas en revenir. On ne peut pas en revenir, ça veut dire que les deux parties sont engagées de telle manière maintenant que ce terrain appartient à l'autre. Et, je ne sais pas, c'est par exemple s'il y a une certaine somme encore à payer, alors le reste, il lui doit à titre de dette. D'accord? Premier, donc, on va appeler ça un geste de kinyan. Premier geste, après accord, etc., discussion, accord, je verse, moi qui suis l'acheteur, je verse l'argent, peut-être même toute la somme ou une partie de la somme. Il accepte, le vendeur accepte, donc l'affaire est conclue, il y a transfert propriété. Maintenant, tout de suite, au moment où l'autre accepte l'argent. Deuxième possibilité, shtar, par exemple. Bon, après, c'est discuté. Moi, je vous dis grosso modo les choses parce que c'est pas toujours très simple. La shtar, alors, faut bien. Bon, par exemple, j'ai employé le mot contrat. C'est faux. C'est pas un contrat. Et ça va permettre de rentrer un peu dans les problèmes. Shtar, c'est par exemple, j'écris sur une feuille de papier, disons un parchemin, quelque chose qui soit susceptible de durer un peu. J'écris, je te vends mon terrain. Ouais. Ce papier-là, moi qui suis le vendeur, je le remets dans les mains de celui qui veut l'acquérir. Au moment où il le prend, le transfert de propriété a lieu. C'est-à-dire, le bien a été transféré. Deuxième geste. Comprenez bien, ce n'est pas un contrat. Un contrat, je n'arrive pas comme ça. D'avoir un contrat, généralement, vous avez des témoins. Un contrat, c'est fait pour être, je ne sais pas, plaidé au tribunal au cas où il y aurait un problème. Ça parle de conditions, etc., qui doivent être stipulées, des signatures, etc. Ce n'est pas un contrat. Le simple fait que j'ai écrit ce papier, évidemment, l'acheteur sait ce que j'ai écrit, je lui remets ce papier, il accepte ce papier-là, alors à ce moment-là, le transfert de propriété a lieu. Je simplifie, mais grosso modo, c'est comme ça. Ouais. Troisième possibilité de kinyan, ce qui s'appelle chazaka. Chazaka, ça veut dire, encore une fois, donc discussion, accord, etc. On est d'accord, je te vends mon terrain. Alors, il y a une possibilité, tout simplement, si on n'a rien sous la main pour faire ce geste d'acquisition de transfert de propriété, eh ben, je l'invite à faire un des gestes, disons, qu'un propriétaire normal fait sur son terrain. Tu vois, par exemple, une barrière, je sais pas, peut-être il change les portes ou change une serrure, je ne sais pas. Un de ces gestes qui signifie, aux yeux de tout le monde, pour lui, pour moi, qu'il est propriétaire. Ça se fait devant moi, j'accepte la chose en question. Au moment où le geste est accompli, je suis propriétaire. D'accord ? Je simplifie, mais voilà donc, disons, trois exemples pour, on va dire, l'acquisition, le transfert de propriété sur un bien immobilier. Sur un bien immobilier, ça peut être tout simplement que, disons, par exemple, on a parlé, on a discuté, on a fixé une certaine somme, je soulève l'objet en question, soulevant l'objet en question, je me rends propriétaire de l'objet et je lui dois la somme qu'on a convenue. Ouais, c'est encore un autre exemple. Ok ? Voilà en gros, disons pour résumer assez rapidement, qu'est-ce qu'on peut appeler des gestes par lesquels s'opère un transfert de propriété. Dans la Gemara, ça a l'air assez clair, sans ces gestes, il n'y a pas de transfert de propriété. On a parlé, supposé qu'on a parlé pendant deux jours, on s'est cassé la tête, fixé le prix, le ceci, cela, etc. C'est une chose importante, on est arrivé à un accord, peut-être même qu'on a dit top là, pas de transfert. Un transfert veut dire, le lendemain, l'acheteur il dit non, mais finalement j'ai réfléchi, je préfère faire un investissement ailleurs, il n'est pas engagé. C'est ce qui ressort, grosso modo, de la Gemara, c'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas eu ce geste spécifique, et en général, c'est des gestes qui sont fixés par les Chachamim au niveau de la Mishnah, eh ben, on considère que, ou il y a pas l'arzorbo, ça veut dire, les deux parties peuvent revenir en arrière en disant, non, mais finalement, tout ça, c'est des paroles, je ne me sens pas engagé, je me retire. Voilà ce qui ressort, on va dire comme ça, en première lecture, Mishnah, Gemara, de manière rapide. D'accord ? Tant que le geste, donc je vous ai donné par exemple 3 ou 4 gestes en question, tant que ces gestes qui sont très codifiés, en fait, qui paraissent très codifiés, tant qu'ils n'ont pas eu lieu, les deux parties peuvent considérer qu'elles sont quittes, parce qu'il n'y a jamais eu entre nous d'accord. On a parlé, on a discuté, on a essayé, bon, mais on n'est pas engagé. Pas plus que ça. D'accord ? Voilà en gros ce qui peut ressortir, on va dire, des éléments de base, quoi, quand on lit la Mishnah, la Gemara, disons, assez rapidement. Ça, évidemment, donc, a priori, ça se présente de cette manière que. Quand je veux donc faire un transfert de propriété, on a l'impression qu'on se trouve en plein droit français, ça veut dire qu'il y a des contraintes légales. Si vous n'avez pas, je sais pas, à poser votre signature au bon endroit, bon, bah, c'est un transfert de propriété. On a l'impression que c'est des gestes très codifiés. Et d'ailleurs, il y a des démarches comme ça, on va dire, donc, chez certains, une manière d'expliquer les choses, d'ailleurs très très proche, disons, de ce qu'on pourrait appeler un mode de législation. C'est-à-dire, comme si donc, Ramim, quoi, dans la Mishnah Gemara, avait eu besoin de codifier des gestes qui permettent à chacun d'être sûr, voilà maintenant, à tel moment, à tel endroit, il y a eu ce transfert. Vous comprenez la difficulté, c'est la suivante. Je vais vous expliquer, elle va nous poursuivre tout au long du problème. C'est qu'il y a quelqu'un qui veut l'objet en question, il y a un autre qui est prêt à le céder. En général, c'est une contrepartie, mais pas toujours, peu importe. Et évidemment, on parle, on discute, et on fait des choses, et on dit des paroles. Quelquefois des paroles qui paraissent, comment dire, très engageantes. Ah oui, oui, c'est sûr, moi, bon, allez, je l'achète, allez, je l'achète, voilà. Ouais. La question est de savoir à partir de quel moment on considère que l'acheteur est complètement engagé, le vendeur aussi de son côté. Et c'est une vraie difficulté. Du point de vue psychologique, on sait tous, en général, que c'est en gros une fois qu'on a fait l'achat ou la vente, etc., qu'on commence à être pris d'angoisse, se demander ce que j'ai bien fait, ou finalement, j'aurais dû rester chez moi, qu'est-ce que j'ai fait de venir ici. Ouais. C'est-à-dire que c'est un problème qui n'est pas simple. À partir de quel moment on considère que quelqu'un ne peut plus revenir en arrière et que le bien ne l'a plus pour ce qui concerne l'ancien propriétaire et que l'autre, ce n'est pas non plus toujours facile, il l'a acquis. Ouais, on sait bien que dès qu'il commence, comment dire, que les inanimes sont importants, il faut acheter une maison, vendre une maison, c'est jamais tellement évident. Ok, je crois qu'aujourd'hui il y a des délais, je ne sais plus comment ça se passe dans le droit français. Bref, ça veut dire que en général on a un problème pour savoir est-ce que vraiment je le voulais cet objet, est-ce que vraiment je voulais le vendre cet objet en question. Est-ce que j'étais prêt à tel prix? Est-ce que... Et après, on a des angoisses, c'est pas possible. D'accord? Alors, c'est intéressant parce que, regarde, remarquez bien. Très souvent, par exemple, c'est ce qui se passe. C'est pour ça qu'on fait une législation en France pour les délais, c'est-à-dire qu'on a des délais de réflexion après. C'est qu'on fait des délais par l'impulsion, comme ils disent. Et après, on se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ouais? Alors, dans les termes de la Gemara, par exemple, il importe de fixer un moment, un geste, une attitude, quelque chose qui puisse dire pour tout le monde, c'est fini. Faisant ce geste-là maintenant, c'est définitif, j'ai cédé ma propriété ou j'ai acheté quelque chose. D'accord ? Le problème, il est réel. Ça veut dire qu'on suppose que les gens ici agissent de plein gré. Il n'y a pas de contrainte. Donc il faut créer ce qui s'appelle ration de malais, une volonté entière, de la part de l'un de céder sa propriété, de la part de l'autre de l'acquérir. Donc a priori, comment ça se présente donc dans la Mishnah, dans la Gemara? Ça se présente comme, on va dire, presque des règles, des réglementations. Tu fais ce geste-là, alors voilà, automatiquement, à ce moment-là, tu dois le savoir, la propriété est transférée. Tu n'as pas fait ce geste-là, rien. Et en particulier dans la Gemara, on a le sentiment, comme ça quand on dit la Gemara, que tous les mots qu'on dise, aucun ne compte. Ne compte, c'est-à-dire, aucun ne pose une borne définitive, voilà, il s'est passé entre nous, tel et tel, rien, aucun mot. On a le sentiment, quand on est à la Gemara, que les paroles c'est joli, mais disons c'est du blabla. Et que l'acte de Kinyan n'a rien à voir avec la parole. Il faut un geste, il faut par exemple, je ne sais pas, même j'ai écrit un billet, je lui ai remis dans les mains, je ne sais pas que je l'écris, je lui ai remis dans les mains, il a pris, à ce moment-là, oui, transfert à Dieu. Mais tout ce qu'on a pu dire, parler, etc., pour l'instant, c'est rien. D'accord? Voilà le sentiment dans la Gemara. Alors, cela dit, donc. Une fois qu'on a cette base-là, la question c'est comment on évolue, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait. La première possibilité, la plus simple, c'est de s'en tenir exactement à ce qui est marqué. D'accord? Voilà les modes de transfert de propriété, il n'y en a pas d'autres. Alors, bon, globalement, c'est faux en fait, très rapidement c'est faux. C'est faux pour une certaine raison, c'est que, on va dire comme ce qu'on appelle le ménage, les coutumes locales imposent tout à fait d'autres régimes. Les coutumes locales, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, par exemple, le marché boursier. Donc, on est même le marché boursier, quand on vend des actions, ça se débite à toute vitesse. Il faut qu'on puisse avoir affaire à un acheteur et un vendeur, et qui est chacun, on va dire comme ça, une certaine attitude. Je n'ai pas besoin quand même de signer 50 papiers pour dire j'ai l'attitude, parce que vu le débit des opérations boursières, c'est impossible. Ok ? Et je ne sais pas, même à la même chose, le bourse du diamant, c'est pareil. Puis, vu le débit, c'est pas possible. Donc, dans ce genre de milieu, par exemple, s'imposent des gestes. Ouais, il suffit par exemple, je sais pas, on lève la main sur un marché boursier, et ben ça veut dire que je suis acquéreur. Ouais, ah, du point de vue maintenant, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça ne peut pas fonctionner autrement, étant donné la nature des échanges. Alors du coup, ça pose un problème, hein, mais du point de vue des gestes de kinyanim que nous on a l'habitude dans la gemara, etc., ben, ça n'existe pas. C'est quoi ça, moi je vous prends un exemple extrême, mais en réalité, depuis que le monde existe, quoi. Il y a des tas, on va dire comme ça, de procédés qui dépendent de ce qu'on appelle le minhag, qui dépendent donc des coutumes, des habitudes, de la manière qu'on a de gérer tous ces problèmes-là, et que ça dépend des endroits, des époques, etc. Alors, là-dessus, bon, il y a une règle générale, c'est que le minhag, c'est mevatelto, dans les problèmes des kinyanim, mevatelto talaha. Si il a été fixé, c'est-à-dire, supposez par exemple que je suis à la bourse, je lève la main pour dire que je suis acquéreur. Supposez que je passe une affaire avec un autre juif. Après, il me dit t'as levé la main, donc là, tu me payes. Je dis non, mais finalement, on n'a pas fait le geste de Kinyan, etc. Il va me répondre, mais c'est pas comme ça que ça marche ici. Non, mais dans la Mishnah, c'est pas marqué dans la Mishnah. Mais la base de notre accord, comprenez bien parce que c'est un problème de fond. La base de notre accord, il n'est possible qu'il y ait du commerce entre les hommes que si, en fait, les conventions acceptées, même si elles paraissent en dérisoire, quoi, parce que j'ai levé la main, que si ces conventions-là, elles sont respectées. Et ça, c'est un problème qui traverse toutes les questions de Kinyanim, qui peut d'abord, des fois, donner des situations très, très délicates à manier. Mais ce problème-là, il est tel que, étant donné la nature des échanges humains, et qu'elle évolue, et qu'elle dépend des milieux, des époques, des histoires, etc., de leur débit, alors la fixation, la codification particulière de gestes de Kinyan est extrêmement difficile. Ouais, et ça peut donner des situations très embrouillées. Alors, comment la question c'est comment on comprend ce qui se passe dans ce genre de geste. Vous savez que même dans les milieux qui sont comme par exemple le milieu boursier dans lequel les échanges se débitent à toute vitesse. Cela dit, si j'ai parlé mais que j'ai pas fait le geste, ça n'est rien passé non plus. Tant qu'on discute, on discute. C'est-à-dire, dans tous les milieux économiques, à chaque fois qu'il y a des échanges, on considère qu'il y a deux choses qui n'ont rien à voir. On discute, on parle. Peut-être même on se met d'accord. Et puis, on s'engage. Ça fait deux choses. Et cette question-là, donc, quels que soient, on dirait, les modes de loi, hein, c'est pas spécial au judaïsme, au talmud, etc., tout le monde est obligé d'en tenir compte. Il y a toutes nos paroles, quelquefois même tous nos écrits, tous nos échanges, nos emails, nos machins, etc. Puis à part ça, il y a le moment où comme dirait la loi, on ne peut plus revenir. Transfert de propriété a eu lieu. Quand on ne peut plus revenir, ça veut dire qu'on ne peut pas revenir sans le consentement de l'autre. Évidemment, si on veut refaire après
comment dire,
ben, si l'autre est propriétaire et que je peux me le revendre, d'accord, mais c'est à son prix. Ça n'a plus rien à voir. Ouais. Donc on a un problème donc, qui est la clé de tout, qui s'appelle Kenim, c'est-à-dire acquisition-cession, qui est qu'il y a toujours un moment, et en général c'est associé à un certain geste, peut-être même quelquefois à un certain protocole. Il peut y avoir aussi une situation dans laquelle il faut dire le mot, comment dire, le mot clé, où il y a des choses spéciales qui, une fois faites, une fois prononcées, une fois que la chose s'est produite, on ne revient plus. Ouais, voilà en gros, disons, ce qu'on peut appeler donc, le monde des Kinyanim. Et la question, donc, c'est comment comprendre une chose pareille, même si du point de vue de l'usage, elle est évidente. Elle est évidente, ça fonctionne partout comme ça. Elle est évidente. Enfin, donc on a parlé on a dit qu'il y a aussi un kinyan dans la femme. C'est la même chose. A priori, il y a un homme, il fait son baratin à une femme, ou réciproquement. Et puis quoi? Il y a bien un moment de dire on n'en régime pas. Il y a un régime qui s'appelle, comment dire, les préparatifs, la parole, l'accord qui se cherche, le fait qu'il y a deux volontés ici qui cherchent un terrain d'accord, un terrain d'entente, puis à un moment donné, on pense que c'est scellé. Donc on trouvera toujours le même genre de problème. Il y a d'autres éléments qui se rajoutent, mais on trouvera le même genre de problème. Comment, en quelque sorte, on peut dire que dans quel acte, dans telle situation, tel protocole a lieu l'accord définitif qui scelle. Qui scelle donc l'affaire, l'entreprise, qui dit oui, il y a ici une communauté complète de vues, et donc les choses sont engagées de telle manière qu'on ne peut plus revenir en arrière. Ok ? Voilà le problème donc de.
Céder la protection ou céder les attentions ?
Je n'ai pas compris.
Céder la protection ou céder les attentions ?
Moi je dis céder quelque chose, un objet. Quand je parle cession-acquisition, je parle d'une chose. On cède une chose, c'est-à-dire ma propriété sur la chose.
Quand vous parlez de céder, on scelle l'opération.
Ah, sceller, pardon ?
Oui.
Ouais.
On scelle la protection ou bien on scelle les engagements ?
On scelle la transaction. Il y a transfert de propriété, ce qui veut dire la même chose que de dire. Il n'y a aucune autre expression dans la Gemara pour dire transfert de propriété que Enodacholarzorbo, qui ne peut pas revenir. Aucune autre, comment dire, explication, aucune autre, comment dire, interprétation du fait que je ne suis plus propriétaire, que je ne peux plus revenir. Ouais, est-ce que ça répond à la question? Voilà. Alors, la question, donc, c'est encore une fois, donc, comment on interprète ce phénomène, même s'il est d'usage courant. Et l'interprétation compte beaucoup parce qu'après, on va dire comme ça, toutes les attitudes qu'on a, comment dire, dans ces actes d'échange. Et toute la législation, elle va en dépendre. Alors, je dis la première attitude, la plus simple, et elle est soutenue par quelques-uns, quoi. Je ne me concentrerai pas tellement là-dessus parce qu'en fait, elle ne m'intéresse pas tellement. C'est de considérer donc, que tout est, comment dire, décrété a priori, c'est-à-dire il y a des décrets, il y a des lois. C'est comme ça en droit français, la vérité. Pas par hasard. Et donc, à chaque fois qu'on aura donc un mode d'acquisition, de cession, etc., de ce qu'on appelle un mode de quignal, on dira donc sur quoi ça repose finalement, que c'était l'acte ou pas. Ben, on a une réponse à ça tout à fait adaptée, à peu près, je dirais, la même en France et chez certains de ceux qui réfléchissent sur la Gemara, c'est la convention. Tout ça, la convention. On a convenu que. Alors dans la Gemara ou dans la Torah, ça se dit la Torah a décrété, les Chachamim ont décrété. Le Minag, ce que j'appelle les habitudes, ben, c'est les conventions collectives, quoi. On a décidé ensemble, quoi, grosso modo, on est d'accord. Ce geste-là, c'est un geste de. Etc. Et ça, en gros, c'est on va dire, les bases d'une législation européenne. Quoi. Bon, voilà. Tout est fonction de convention. Ce qui explique d'ailleurs que ça peut évoluer très rapidement en fonction derrière, dans les gens qu'on vienne, qu'il faut modifier les choses. La contrepartie de cette position-là, comprenez bien, c'est que donc, elle a l'avantage d'être claire. Okay. C'est convenu, ça marche. C'est pas convenu, il n'y a pas de convention là-dessus. Bon, rien, on n'est pas engagé. Ok? Donc c'est clair, du point de vue, on va dire comme ça, du traitement des affaires, hein, c'est très clair. Bon, du point de vue moral, c'est moins clair, on reconnaît. Du point de vue moral, c'est moins clair, parce que, disons qu'on sait très bien que dès qu'on a ce point de vue-là, vis-à-vis donc, de la loi, de la législation, etc., alors toutes les manœuvres et les procédures d'avocats sont permises, quoi. Par exemple, c'est une question par exemple, posée en droit français, on n'est pas propriétaire en droit français de choses dans le commerce prohibé. Par exemple, on n'est pas propriétaire de drogue. D'accord ? Si je me fais voler ma drogue, je ne peux pas porter plainte à la police. Et donc la police aussi peut le prendre d'ailleurs. Et c'est par exemple, puisque donc la propriété n'est pas reconnue par la loi, légalement, j'ai aucun droit là-dessus. C'est la loi qui me dit si je suis propriétaire ou pas. Alors, en conséquence de quoi, du point de vue légal, je ne serai jamais propriétaire d'une substance pareille. Ouais. Tout ce qui ne sera pas, vous comprenez tous les problèmes qui vont être afférents à ça. C'est-à-dire, quand on dit c'est une convention, on veut dire il n'existe aucune propriété naturelle. C'est dans ma poche. Donc, à titre de possession, par exemple, je peux être passible des tribunaux, mais du point de vue légal, je n'ai pas de propriété dessus. Ouais. Donc, je ne peux pas le vendre. Je ne peux pas non plus faire commerce de drogue. Voilà. Désolé. Donc, là, voilà. Ça, c'est par exemple une des conséquences, on va dire, du point de vue qui dit que toutes les choses sont fixées par la loi et par la convention. La loi ne reconnaît pas cet usage, n'existe pas l'usage en question. Ouais. Alors, supposez maintenant que, je veux dire, vous comprenez le problème, c'est que dans certaines transactions, on peut s'être avancé très loin. Supposez par exemple, parce que c'est les cas les plus fréquents qui se produisent, c'est que moi je vais acheter quelque chose. Maintenant, on discute. Et puis, dans les discussions, il apparaît que je dois faire certains pas en avant, quelquefois beaucoup de choses. Non, c'est parce que je veux la chose en question. Et moi, dans mon esprit, c'est clair que si l'autre me propose de faire ses pas en avant, tu vois, par exemple, il faut que je sois ma société, il faut que. Non, je veux dire, au fur et à mesure, il faut que j'avance. Et on est toujours dans nos transactions. Mais moi, dans mon esprit, ça s'appelle en hébreu, Ani Somer Kiwala, en fait, je suis. Comment dire, j'ai foi en lui, on va dire comme ça, je crois en lui. Et s'il me propose ça et que je vois qu'on avance, alors moi, j'ai commencé à débourser de l'argent et à faire sorte de malheur, etc. Et puis bon, dernier moment, il se dérobe. Légalement, il n'y a rien à dire. Ouais, rien à dire. Puisque donc le geste n'a pas été accompli, le protocole n'a pas été respecté, il n'y a rien à dire. Ok ? Et ça, donc évidemment, alors je dis encore une fois, même là, tout le commerce quoi, des avocats aujourd'hui, c'est autour de ce genre de questions. Ça veut dire quel est exactement le protocole en question, est-ce qu'il a été respecté par respecté, et dès qu'il y a une fente pour passer, on passe. Ouais. Mais ça le mérite, il faut dire, on va dire au bout du compte, on a des arguments clairs pour trancher, enfin, on croit comme ça, en tout cas, on a des arguments clairs pour trancher, disant le protocole a eu lieu, c'est bon, il n'y a pas eu de protocole, c'est pas bon. Ouais. Alors, la difficulté, c'est que. voilà, le problème difficile, c'est que la Gemara ne se limite pas à ça. Mais seulement, évidemment, c'est les choses, dès qu'on commence à parler, disons, des rapports humains, la confiance placée dans un autre, les démarches que je fais, etc. Alors, c'est beaucoup plus subtil. Parce qu'on n'est pas réglementé avec des paquets de machinerie comme ça, bien posés, avec des kinyanim bien définis, etc. C'est beaucoup plus subtil. Ça dépend, finalement, de la nature de la relation humaine, qu'est-ce qui s'est passé. Et voilà, donc le problème, c'est que la Gemara, donc, rentre dans ce genre de considération. Je vais donner un petit exemple, hein, parce que je ne veux pas trop rentrer là-dedans. On va le redévelopper de manière plus générale, peut-être. Petit exemple. Vous voyez, par exemple, je promets un cadeau à quelqu'un, je ne suis pas engagé. D'accord ? Je dis, bon, écoute, je ne sais pas, je le vois, il a le besoin, et tout, même si, je ne sais pas, des choses extrêmes et tout, il n'a pas de logement, pas de machin, etc. Bon, viens habiter chez moi, ou je te passe une maison, machin, etc. Mais si, ouais, voilà, d'accord ? Ok, maintenant le lendemain il vient avec son truc, tout son barda, il vient un truc. Ah ben non, finalement je l'ai vendu. Je ne suis pas engagé. C'est une parole. Mais si c'est ce qu'ils appellent matanam ou etet, un don de peu de valeur, d'accord, qui n'est pas, en général, ces dons ne sont pas vraiment monnayables. Alors ce n'est pas le cas. Oui, je suis engagé. Et ça, c'est une question, ce qu'on appelle de amana, c'est-à-dire que c'est le même mot que emuna, hein, c'est une question de confiance. Par exemple, les exemples de la Gemara, c'est. Bon, je ne connais pas parce qu'on va rentrer dans les détails, mais disons, supposez que je promette à quelqu'un quelque chose qui ne coûte rien. Et à ce moment-là, la Gemara dit oui, je suis engagé, c'est-à-dire, je n'ai pas le droit ici ensuite de revenir en arrière et de le refuser. Vous comprenez, ce n'est pas forcément ici qu'il y a eu un transfert de propriété, mais ça peut exister même dans les problèmes de transfert de propriété. Si la chose à laquelle je m'engage, c'est une chose que l'autre estime, globalement on estime que ça ne coûte pas grand chose, alors il se passe un autre phénomène qui c'est que Usomer Dato Alai, lui, celui à qui j'ai fait cette promesse, il est hein, il compte sur moi, ouais, d'accord, voilà, très bien, il compte sur moi, c'est-à-dire il a cru à ce que je lui ai dit, et pour lui c'est une chose qui est donc suffisamment claire. Je vais prendre un exemple très bête, je veux dire, au sens, supposons que je promette à quelqu'un, oui, je te ferai ceci, que cela, mais je suis débordé de travail. Alors si finalement je ne lui fais pas, ou je ne viens pas, ou ceci ou cela, il dit, oui, bon, j'ai compris, de toute façon, il est débordé. Mais c'est pour ça que je n'ai rien à faire. Il me dit, tu peux venir, t'es jour, t'es là, maintenant, m'aider, je déménage et tout, tu fais rien, parce que ouais, ben, c'est sûr qu'il compte sur moi. Parce qu'il sait que je fais rien. Et que ça te coûte, tu fais quelque chose. Alors, ces exemples très clairs, en fait, qui sont simplement, on va dire, des faits de relations humaines brutes. Il y a des moments donnés qui ne dépendent pas forcément, on va dire, disons, des gestes particuliers, du protocole. Il y a des moments dans lesquels un autre individu se fie à ce que je dis. Ah, mais pourtant, je ne me suis pas engagé, on va dire, avec contrat, sous astreinte, que je paierais telle et telle somme, sinon. Parce que du point de vue, on va dire, légal, on ne peut rien contre moi. Mais la Gemara prend compte ce fait-là. C'est-à-dire, en d'autres termes, indépendamment de toutes les règles qui qu'on pose, il y a une dimension, comment dire, des relations humaines, qui est que lorsque l'autre, vers lequel je m'avance, il compte sur moi, comprenez bien, c'est délicat à manier comme situation, mais lorsque donc on peut être suffisamment clair dans notre esprit, disons, à peu près, où les gens qui regardent, qui considèrent la chose de l'extérieur, oui, celui-là est compté sur moi, alors, oui, il peut se trouver que je sois engagé. Et donc, sous entendu, en termes de Mara, je n'ai pas le droit de me délier de mon engagement. Alors ça, je dis donc, la difficulté dans ce genre de choses, c'est que, évidemment, ce n'est pas des choses massives comme le kinyanim dont je vous ai parlé, qui sont des réglementations très strictes, voilà, tu as fait tel geste, c'est fini. Il n'y a pas forcément de geste, ça dépend à chaque fois de la situation. Mais le concept qui existe dans la Gemara, ça s'appelle Makosar Amana, ça s'appelle donc le fait de, on va dire, de manquer à la confiance qu'autrui a placée en nous. Et ça, cette idée-là, elle implique donc qu'on n'a pas le droit de lui manquer à sa confiance. Maintenant, comprenez bien, n'importe qui peut après venir dire n'importe quoi. Tu m'as promis la lune et tu ne me l'as pas mis. Oui, mais enfin, personne n'y croit. Quand je promets la lune, c'est très bien que je ne le tiendrai pas. Donc c'est une question à manipuler avec précaution. Comprenez, ce n'est pas une chose qu'on peut manipuler dans les critères publics du droit avec les procédures d'avocat et machin. Ben non, c'est très délicat. Mais voilà, ça existe. Et la question, c'est quand on dit ça existe, c'est jusqu'à quel point ça peut exister une chose pareille. Alors, je disais, bon, je ne sais pas si... Je sais pas si on aura le temps de regarder, mais enfin... La question est la suivante. Comment, parce que une fois qu'on a commencé à considérer ce problème-là, à savoir, il existe une dimension qu'on va appeler comme ça d'engagement moral à l'égard d'autrui, à partir du moment où il a placé sa confiance en moi. La question qui revient, c'est de savoir si, est-ce que cette chose-là, cette confiance dont on parle, est-ce que c'est une chose, on va dire, annexe au problème des kinyanim dont on a parlé, à cette réglementation dont on a parlé? Ou bien non, est-ce qu'elle est le cœur de la question? Là-dessus, encore une fois, il y a deux points de vue, mais moi, il y en a un que je ne prendrai pas. Donc, je vais essayer de préciser ma question. Pour l'instant, j'ai fait comme si il existe des règles de Kinyan qui sont de cet ordre-là que, comment dire, que la loi décide, la convention décide. Et à côté, j'ai dit, mais à côté, quand même, il y a d'autres problèmes, des problèmes humains qu'il faut gérer aussi, comme s'il y avait deux problèmes complètement distincts. Alors, toute la question... c'est de savoir si précisément c'est vrai que c'est bien deux problèmes distincts. Ce que je vous ai présenté, c'est le point de vue le plus simple. Le plus simple veut dire aussi le plus simpliste. On a une réglementation et on a un problème humain. Oui, en général, c'est pas comme ça. Il n'y a rien. Aucun rapport. Ok ? Bon, on essaie de faire coïncider, mais aucun rapport. La question dans la Gemara, c'est si précisément, au contraire, c'est pas un rapport très étroit. Alors, je vais vous présenter la question. Les mêmes termes de Kinyan dont je vous ai parlé, sous cet angle-là. Bon, je ne l'ai pas inventé, hein, je veux dire, c'est là, en gros la voie suivie par le Razoni, je ne sais pas, donc, le Welmo, je ne sais pas, des auteurs ici. C'est-à-dire que tous les gestes qu'on a définis jusqu'à présent, je les reprends. Par exemple, je donne de l'argent pour acheter un terrain. On a discuté, on parle, et puis on se met d'accord. Maintenant, intervient un moment sur lequel tout est d'accord. Il faut un moment où on puisse dire, voilà, ici les choses ont basculé. Maintenant, on est engagé. Alors, peut-être que ce moment-là, c'est précisément le moment qui est tel que l'autre est sûr maintenant de moi et réciproquement. Pour l'instant, jusqu'à présent, j'ai défini comment? Comme des trucs qu'on dirait tomber du ciel. Ouais, les rabbins ont décidé, c'est l'argent, c'est un shtar, c'est comme si c'était un truc de législation. Allez, la convention a dit. Mais non, peut-être qu'au contraire, c'est ça le fond du problème. C'est que quand je lui ai remis une somme d'argent, pas la totalité de l'argent, il suffit pas, on n'a pas besoin de donner une totalité d'argent. Je lui ai remis une somme certaine d'argent, l'autre pense, c'est dit, c'est sûr, c'est fait. Ouais. Et moi, réciproquement dans mon esprit, il a accepté l'argent, c'est sûr. De la même manière, supposez par exemple, je vais présenter le cas de Kinyan Razaka. Kinyan Razaka, ça veut dire, le seul mode de Kinyan, une fois qu'on est parlé, fixé, les détails et tout, il me dit bien, fais un geste de propriétaire sur la chose en question. Et bien, je le fais devant lui, ce geste de propriétaire. On dit, ça y est, il a accepté devant lui, il a accepté que que j'ai ce geste, cette attitude, je suis propriétaire du terrain. Ah, c'est pas possible, on revient. Donc tous les éléments de Kinyané dont on a parlé, oui, on peut très bien les envisager sous cet ordre, sous cet angle-là, et dire qu'en réalité, donc, du début à la fin, on a un seul principe. Un seul principe. C'est quand on est garanti, on, ça veut dire l'acheteur, le vendeur, et on pourrait dire n'importe qui regarderait la scène avec un point de vue un peu objectif, que quand on est garanti que les deux parties, au minimum l'un, sommaire, ça veut dire il compte sur mon engagement, il considère que je suis engagé, il pense que je ne manquerai plus à ma parole, ben ouais, c'est très bien que c'est ça qu'on appelle tout simplement un acte de client. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire, c'est comme si on disait la chose suivante. On peut traiter les kinyanim qu'on voit dans la Torah, un peu comme on traite en droit français, en droit européen, en général, comme moi on voit ça vient du droit romain, la nature des transferts de propriété, c'est-à-dire toute affaire de convention. Convention, ça veut dire arbitraire. C'est-à-dire, je m'en fous, moi, des sentiments de l'autre, etc. Il y a un protocole, et il faut bien qu'on s'entende. Il y a un protocole, et voilà, on a respecté le protocole, c'est bon, on ne l'a pas respecté, ça change rien. Et donc, c'est vrai, on peut traiter le problème de cette manière-là. On aura toujours des annexes, de toute façon, elles existent. Des problèmes annexes, ils ont, mais bon, il y a des fois dans lesquels moralement, tu es engagé. Bon, hein, on gère. Ouais. Imagine, en France aussi, ils doivent gérer. Quoi. Bon. Là, ce point de vue-là, il existe tout à fait possible. Il y a un autre point de vue, donc, qui est défendu donc, par le Khazanich chez Eloi Moshe. C'est que ce n'est pas le cas du tout, c'est que même quand on parle de kinyanim, qu'on prétend faire de la législation, etc., on ne fait pas de la législation, ce n'est pas des conventions. C'est qu'en réalité, les chachamim, ils ont repéré certaines situations dans lesquelles, à ce moment-là, on est obligé de dire que l'autre, vis-à-vis duquel, en face de lequel je me trouve, avec lequel je fais une transaction, cet autre-là, il croit en moi, il croit que maintenant, ça y est. En d'autres termes, ça voudrait dire donc que, une conséquence par exemple, ce n'est pas du tout la loi qui fixe qui est propriétaire. C'est quand on arrive à ça, à cet accord complet dans lequel je suis sûr maintenant que l'autre est engagé. Ah ben là, donc ça lui appartient, ou réciproquement. Comment ça fonctionne? En d'autres termes, ça revient à dire, faites bien attention, ça veut dire que tous les kinyanim sont de cette nature morale ou psychologique. Ouais? Si on demande maintenant, bon ben alors pourquoi ils ont fixé des modes? Pourquoi fixer des modes dans ce cas-là? On n'a qu'à laisser les choses évoluer, chacun, etc. On voit bien en fonction de la situation. Alors, je vous répondrai d'abord. Semble-t-il que le derrière du Khazanich, etc., c'est oui, mais bah, de toute façon, c'est comme ça en fait. Il ne faut pas croire quand on a fixé des modes, on est limité par les modes en question. Hein. Si on est capable d'évaluer qu'ici, il y a eu une smichodat, c'est-à-dire il y a eu, le fait que l'autre, face duquel je m'engage, etc., bah, il pensait que moi j'étais engagé complètement, on n'est pas limité par les modes en question. Et si on demande encore, mais alors pourquoi ils ont énuméré cela? Parce que cela, c'est le plus évident. C'est tout. Une fois qu'on a bien parlé, etc., d'un objet, par exemple, je ne sais pas, il veut me vendre, voilà, il veut vendre un verre, moi je ne vaut pas grand chose. Ben. Ouais, alors le verre il est là, on a discuté, on a fixé le prix, je dis bon, alors c'est à qui? Je fais ça, oui, d'accord. Ben, qu'est-ce que vous voulez? J'ai fait le geste de quelqu'un qui s'empare d'un objet, devant lui. En d'autres termes, ça veut dire que tous les modes de kinyanim qu'on connaît, qui sont répertoriés dans la halakha, ne sont, on va dire comme ça, que les pointes les plus extrêmes, les plus évidentes, dans lesquelles on va dire voilà, c'est sûr. C'est, on l'a très clairement. C'est pour aider le Dayan un peu imbécile, le juge un peu débutant. Il ne comprend pas très bien, on lui met des règles. Ok? Les autres sont plus intelligents, ils apprennent des règles en question. Ils disent, bon, mais de toute façon, à chaque fois qu'on aura... Ce que nous, on peut considérer comme étant un accord dans lequel quelqu'un moralement est engagé de l'autre, l'autre compte sur lui, c'est la même chose. Ouais? D'accord. Voilà, je vous ai résumé rapidement, très rapidement, en ce modo, donc, le problème des kinyanim. Alors, la question, c'est la suivante. Je dis ça en fait pour éviter un écueil et pour aller vite. Parce que vous comprenez, psychologiquement, il y a des gens qui sont convaincus de tas de choses. Ouais, il y a des gens, je vous jure, on leur promet la lune, ils y croient. Alors, on ne peut pas faire tenir quelqu'un comme ça. Quand je veux dire, parce qu'on a besoin de toute façon d'un moment donné où je peux dire, ça y est, l'accord est scellé. On sait bien qu'on discute avant. Et donc, il y a un moment donné dans lequel je peux dire, tu sais que tu t'engages? Parce qu'il faut le savoir. Il faut que ce soit bien clair. Moi, par exemple, je ne sais pas. Moi, c'était cap clair de la Gemara, donc il me châtait un ibar, je me moquais de toi. Évidemment, je me moquais de toi, et toi, t'es un imbécile, tu l'as cru. Mais on ne peut pas me tenir sur une chose que moi, j'ai jamais pris au sérieux. Donc, il faut qu'il y ait un minimum, on va dire, de cohérence dans ce qui se passe, qu'un autre qui analyse la situation. Bon, c'est pour ça que je prends cette dimension-là. Un autre qui analyse la situation, il dit non, mais évidemment qu'ici, il n'y a pas à prêter foi à ses paroles. Ou bien au contraire, évidemment qu'ici, il va prêter foi à tes paroles. Mais je simplifie en disant ça. Parce que voilà, on va rentrer un petit peu dans les problèmes. Alors moi je pense, disons que cette, bon, ce que je vous ai exposé en gros, c'est ce que, disons, moi j'ai vu à peu près le plus intelligent quoi, dans les Polski, comme je le vois. Donc là, le... Mais voilà, je suis pas exactement d'accord. Alors on va aller lentement. Je vais d'abord vous signaler un point. Hormis la question donc Aïcha Nikli, comment l'épouse est acquise par son mari, hormis ce cas-là, tous les cas Kinyan, on n'a pas besoin de témoins. C'est une affaire entre deux hommes. J'ai eu besoin de témoins en tant que tel sur l'affaire en question. Ce qui fait que d'ailleurs qu'on peut avoir ensuite plein de problèmes. On peut demander à des témoins de venir pour assister à la scène et ensuite nous aider devant le tribunal et c'est des problèmes. Mais en soi, il n'y a pas besoin de témoins. Donc c'est une affaire entre moi et lui. Ça se passe entre deux personnes. Donc c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle donc en gros une question intersubjective, ouais, je pense que ça s'appelle comme ça. Oui, complètement. Et a priori, ça correspond assez bien donc, à ce que le Razonich et le Rouel Moshe essayaient de défendre. Eux, ils en font un principe de base, le Rouel Moshe c'est très clair, de tous les accords possibles et imaginables. Je vous le dis jusqu'au bout parce que c'est une démarche qui est très forte. Le Rouel Moshe, il pense que l'idée même qu'une Torah et des mitzvot, ça repose là-dessus. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez? Il faut que je puisse dire que je suis engagé. Si je ne le dis pas, je ne suis pas engagé. Comment est-ce que les hommes font des, comment dire, des notions de bride hein, dans, le, comment dire, dans, la, dans la Torah? On voit le bride d'Abraham Avinu avec Abimelech. On voit, puis ensuite, quoi, le bride d'Hachem avec les Bnei Israël. Et alors, un bride, ça fait quoi? Ça fait un bride. Est-ce qu'on a défini au départ les règles de protocole qui fait que j'ai bien signé au bon endroit? Pas du tout. La base même de n'importe quelle situation dans laquelle je peux dire je suis commandé de ceci ou cela, je suis engagé par ceci ou cela, il dit, mais ben là, c'est ce qu'on est en train d'appeler maintenant la confiance qu'on place l'un dans l'autre. J'ai dit je me suis engagé et l'autre partie a cru, oui, tu es engagé, c'est fini, je suis engagé. Ouais, ils vont très loin dans cette démarche-là. C'est-à-dire, autre terme, c'est comme si on disait, c'est une sorte de, ce qu'on appellerait un mouskal rishon, une idée première, une intuition première des êtres humains dans leur rapport humain. C'est la seule chose, c'est la base même de tous mes engagements, la seule chose, c'est que si l'autre est, comment dire, prend en compte ce que je dis et il s'appuie là-dessus pour penser que voilà, entre nous telle situation est acquise, je suis engagé. Ouais. Voilà en gros donc la situation. Le problème, c'est qu'il existe des exemples dans la Gemara dans lequel en fait ça va beaucoup plus loin que ça et qui sont plus délicats. J'ai ramené une Gemara donc dans ma côte. Voilà, comme si bien touche à vous, alors c'est l'occasion en même temps. C'est une Gemara qui parle du matin de Torah. Je vous la dis en vitesse. Donc, vous savez, bon, c'est une chose. Bon, il paraît qu'on a reçu 613 mitzvot au Sinaï. Voilà, ce que dit la Gemara. Parce qu'en réalité, c'est pas si simple que ça. Disons, là, en tout cas, la Gemara le dit. On a reçu 613 mitzvot au Sinaï. Voilà, Moshe a reçu 113 mitzvot au Sinaï, très bien. Et la Gemara nous ramène voilà, différents éléments là-dessus. Puis ensuite, la Gemara continue très curieusement. Elle dit ensuite, Uba David, donc David Ameler vient ensuite, Vemidam al-Achat Esre. Et des 613, il en a fait un raccourci, 11. D'accord, 11. La Gemara continue, bon, j'ai pas dit, la Gemara continue, un autre il est venu, il en a fait 6. Le dernier il est venu, c'est Rabakouk, il en a fait 1. Et lui, tout ça, il y en a une. 613, croyez pas, il y en a une. C'est Tzadik Bemunato Yirye, le juste vivra Bemunato. Par sa foi ou par son. Parce que, encore une fois, c'est le même problème. Ça s'appelle respecter aussi la croyance que l'autre il place en nous. D'accord? Mais je laisse ça. En tout cas, donc, il y a une marade très curieuse qui dit que donc on a reçu 113 000 votes au Sénat et que vient David Ameler, ensuite il en a fait, il en a fait 11. 11 qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec celles qui sont. C'est pas qu'il en a pris 11 en disant c'est les principales, laissez le reste. Il a reformulé les choses complètement autrement, qui fait qu'il y a 11 choses. Alors là-dedans, donc quand on dit que David Ameler est venu les mettre Emidam al-Khadesre, on ramène donc un pasouk. Voilà, Miyagur Boalecha, Miyishkon Bahar Kotchecha. David il pose une question donc, dans Tehilim, il pose une question donc il dit qui habitera dans tes tentes Hachem? Miyagur Behar Kodesh, qui habitera le Har HaKodesh, qui pourra résider donc à côté de toi. Donc c'est comme si on demandait qui finalement est près de toi, il s'adresse à Dieu comme ça, et qui est près de toi, qui, qui habite avec toi, qui est ton voisin, ton compagnon, etc. Et puis il énumère qui est la personne en question, qui est digne de ça. Il dit voilà, Oler Tamim, Poel Tzedek, Dover Emet Milvavo. Alors, bon, une traduction au livre est très rapide, je ne peux pas aller jusqu'au bout. Oler Tamim, donc c'est quelqu'un qui est tam, ça veut dire sans défaut, entier, en fait, ça veut dire entier. Quelqu'un qui est entier, quoi, qui n'est pas. Sans défaut, ça veut dire grand chose en français. Mais comme on dit de quelqu'un qui est entier, non, parce que ce n'est pas forcément un compliment en français. Ça veut dire, en d'autres termes, il n'y a pas d'attitude vicieuse de sa part. Ouais, voilà comment on pourrait dire. Je vous dis très, très librement, Poel Tzedek, bon, en général, ça c'est facile, quoi, il fait la justice. Ce qui m'intéresse, voilà, Dober Emet Bilbavo, littéralement, Dober Emet Bilbavo, il parle vrai Bilbavo dans son cœur. Il parle vrai dans son cœur. Il y a différentes explications de cette expression un peu curieuse, il parle vrai dans son cœur. En général, on parle vrai aux autres, quoi, hein? Pense vrai. Alors vous allez voir, parce que là, c'est là-dessus que c'est ça qui nous intéresse, parce que là, on va tomber en plein dans les kinyanim. Alors remarquez bien, en tout cas, le malard de la Gemara, elle amène ça. C'est-à-dire, elle dit il y a 613 mitzvot, puis elle continue, mais David Améler, il est venu, et donc il a formulé les choses encore autrement. Il y en a 11. Sur ces 11, on nous présente une drôle de truc qui s'appelle donc, c'est ce qu'on décrit, c'est pas des mitzvot au sens propre, en fait. C'est des comportements moraux, c'est-à-dire, Oler Tamim, Poel Tzedek. Des comportements moraux plus généraux. Il y en a un qui s'appelle Dover Emet Bilbavo. Alors, je vous lis, voilà, je vous lis Rashi. Voilà, la morale continue un peu plus loin. Elle dit voilà, c'est qui c'est, qu'est-ce que c'est cette histoire de Dover Emet Bilbavo ? Elle dit c'est Kagon Rav Safra. C'est comme Rav Safra. Rav Safra, c'est un des Amoraïs. Alors, Rashi raconte son histoire. En fait, il a trouvé dans les Shodot de Rabbi Gaon. Il dit voilà, voilà qu'est-ce qui s'est passé avec Rav Safra. Rav Safra, et alors, Chefes Echad Limkor. Donc, il avait un objet à vendre. Rav Safra. Ou bah Adam Echad, le fan avait un homme est venu devant lui pour l'acheter. Mais Shad Kriyat Shema, au moment où donc où Rav Safra est en train de dire Kriyat Shema. Alors quand on dit Kriyat Shema, normalement donc on ne s'interrompt pas, enfin, pas pour rien en tout cas. Enfin oui, on s'interrompt. Bon. Alors, et celui-là donc qui était là, il dit Tenli, répète Vekar Damin. Il dit bah écoute, moi je t'achète cet objet-là pour tant d'argent. Velonaou. L'autre, Rav Safra, il lui a pas répondu, il est en train de dire qu'il y a schéma. Alors, il dit qu'il y a schéma, quoi. Il entend, ouais, j'ai compris, mais enfin, je veux dire, j'ai envie de dire qu'il y a schéma. Attends, je finis, je te réponds. Ouais. Seulement, celui qui voulait acheter l'objet, il n'a pas compris qu'il est en train de dire qu'il y a schéma. Kassavourze, Shelo Aya Rotse, Litno Badami Maelo. Il a cru qu'en fait, il voulait en fait plus cher. Vekwa, Veosif, Amartno Li, Bekar Yoter, là. Voilà. Bekar Yoter. Il dit alors, il a augmenté la somme. Pour lui, c'est comme quelqu'un, il vient de faire une proposition, il sait qu'il a quelque chose à vendre, il dit bon, je te donne 100. Il ne répond pas. 200. Continue à monter. Parfois, il pense quoi? Il pense que l'autre, il dit ça va, tu payes ma tête, je ne te réponds même pas. Mais en fait, ce n'est pas ça du tout. Alors là, la suite, la Rache Sigem qui est la schéma, une fois qu'il a fini, donc Rache Sigem qui est la schéma, à Marlo, Tol Rafsecha, Bedamim Shamarta Barishona. Prends l'objet pour la première valeur que tu m'as dit. D'accord ? Je posais qu'il est venu en disant pour 100, puis après il a monté. Il a dit moi je te le donne pour 100. Pourquoi ? Chez Beotam Damim Ayadati Litnam Lecha. Parce que quand tu l'as dit ça, alors moi, dans mon esprit, j'ai acquiescé. Je dis ouais, c'est bon. C'est bon. Alors regardez la situation, parce qu'il faut bien saisir la situation. Situation très particulière. On est vraiment très loin de tout ce qui concerne, on va dire, les réglementations. En termes de réglementation, je ne sais rien du tout, ok. Mais seulement, en fait, paradoxalement, on est loin aussi de ce que dit le Chazonish, il était là où on est sur le Moshe. Regardez bien. La situation, c'est la suivante. C'est une chose, comment dire, connue, j'ai un objet à vendre. Maintenant, je suis occupé, moi, à telle et telle chose, vient quelqu'un, il lance un prix. En fait, dans mon esprit, quand il a dit ce prix-là, je dis, ouais, d'accord. J'acquiesce, je suis d'accord. L'autre, il n'a pas compris que j'étais d'accord. Il a cru que j'étais pas d'accord. Il augmente le prix. Il augmente le prix et comprenez bien, là, en fait, il y a simplement un malentendu entre nous, mais je ne le trompe pas du tout ici. Il est en train de dire qu'il y a schéma, il n'y a pas de trompe pour ça. Moi, je suis en train, j'ai pas de repeindre quelque chose, j'en sais rien. Je dis, attends, ouais, je finis quoi. Mais l'autre, il comprend, il y a un malentendu ici, il comprend que en fait, je fais plus cher. Il augmente le prix. Ce qui veut dire qu'il est prêt à payer plus cher. En termes, ce qui se passe dans son esprit de celui qui va acheter. C'est dire, c'est penser que donc, il ne veut pas me vendre. Donc, il n'y a jamais eu entre nous d'accord. Et donc, il continue à augmenter le prix. Ensuite, Rav Safra, donc, il termine, il dit, en fait, je suis, j'étais occupé, quoi. Mais j'étais d'accord dès la première somme. Et donc, je te le vends à la première somme. Alors, voilà. Ça, la Gemara veut avec ça illustrer une des mitzvot de David Ameler, quoi, qui s'appelle Dover Emet Bilvavo. Dover Emet, ça veut dire, il parle vrai dans son cœur. Regardez bien la situation, il parle vrai dans son cœur. Si vous comprenez bien la situation, vous allez comprendre ce que veut dire l'expression « il parle vrai dans son cœur ». Moi, j'ai un objet à vendre. Quelqu'un me lance un prix. Je suis d'accord sur le prix. Maintenant, il en lance un deuxième plus cher. Je suis toujours d'accord pour le deuxième prix. Et plus il continue, plus je serai d'accord. Il peut continuer comme ça longtemps. Moi, je devrais attendre très longtemps. En d'autres termes, ça veut dire mon intérêt à moi quand je vends quelque chose. Évidemment, ça demande le plus cher possible. Maintenant que j'ai accepté dans mon fort intérieur, la première somme qu'il a lancée, puis après, je suis engagé. Mais pas du tout. Attendez, regardez bien. En termes de réglementation, rien du tout, c'est sûr. Mais même en termes, dans mon rapport intersubjectif avec lui, je suis engagé, mais pas du tout. Je ne suis pas engagé. L'autre, au contraire, il a jamais pensé à une seconde que moi je le vendrais à ce prix-là. C'est pour ça qu'il a surenchéri. Donc, en vrai, j'ai toutes les raisons. Il n'y a aucune raison qu'on va devenir fou. Même si on dit, on va appeler ça Midat Hassidut, d'accord ? C'est des choses qui font vraiment les grands talmudis. Mais ça va, on n'est pas marqué n'importe comment. Enfin, j'ai mon intérêt pécunier qui me crie, sans mieux, c'est toujours sans point. Et qui l'ajoute et qui continue, je ne vois pas le problème. Du point de vue moral, je n'ai jamais trompé sa confiance. Mais jamais. Lui, au contraire, est convaincu que moi, je ne veux pas vendre au premier prix. Donc, ni du point de vue juridique, ni du point de vue moral, je n'ai aucune raison de m'en tenir au premier prix qu'il a dit. Je sais bien qu'on faut de sadique, on leur fait tout passer. Mais il faut leur faire passer que c'est un imbécile. Vous comprenez, je veux dire, un sadique, c'est pas faire de business, un crétin. C'est quoi cette histoire? Depuis quand? Il est engagé ou il n'est pas engagé? S'il n'est pas engagé, je ne comprends pas ce qui se passe. Il n'a pas une famille à nourrir, celui-là. Alors, le problème s'appelle Dover Emet Bilvavo, ça veut dire, malgré en fait tous ses intérêts, disons, qu'un homme il peut avoir à vendre de plus en plus cher, mais à un moment donné, dans son cœur, dans son esprit, il a accepté. Et ça, il n'a pas oublié. Et lui, donc ça signifie que, d'après Rav Safra, d'après ce comportement-là, ça va beaucoup plus loin que la question intersubjective. Là, c'est vrai qu'il y a une certaine situation, c'est-à-dire que je suis en face de quelqu'un, mais le problème, c'est pas de savoir si je le trompe, je l'abuse, ou qu'il a placé sa confiance en moi ou pas, mais ça n'a rien à voir. On m'a fait une proposition, j'étais d'accord. Pour Rav Safra, peu importe, il suffit que je repère dans mon cœur que je suis d'accord, je suis engagé. Alors je vous ai ramené un exemple. C'est un exemple particulier. On ne peut pas trop se tendre dessus parce qu'il est un peu un exemple de halakha. Pardon ?
C'est pas intersubjectif, c'est
ouais. Rien à voir avec l'intersubjectivité. Rien à voir. C'est pas pour dire que, comment dire, que ce que dit le Chazon Ish Lakish Moshe, c'est pas juste. Je dis simplement, notre problème, vous voyez, il y a une formule dans le Chazon Ish, ben je l'ai mis ici. Il dit, Klal Gadol Yilecha Bekinyanim, il dit, il faut que tu aies une grande règle générale dans tous les Kinyanim, tous les problèmes de cession-acquisition. Dikar à Kinyan, l'essentiel du Kinyan, où, alors voilà, Shigmor Belibo Lachnot Adavar Lechavero, que lui, dans son cœur, Shigmor Belibo, ça veut dire, ce soit une chose achevée, terminée dans son cœur, qu'il cède, qu'il donne ou qu'il cède l'objet à son ami, et que son ami, l'autre, il se mord à toi, alors il est confiance en moi, c'est-à-dire il pense que je suis engagé. D'accord ? Il dit deux choses. Alors, l'aspect par lequel, donc, la question de la confiance, je vous l'ai dit, c'est vrai, elle est énorme, et elle va terminer dans un tas de choses, dans un tas de domaines. Mais ce qui m'intéresse, c'est le premier aspect qui s'appelle Gomer Belibo. Dans son cœur, la chose est décidée, achevée. Ce qu'on voit dans Rav Safra, c'est qu'il suffit, même si l'autre n'est pas encore au courant de ça, il suffit que moi j'ai décidé dans mon cœur d'accepter sa proposition. Alors Rav Safra dit, je suis engagé.
La situation est très dure parce qu'on sent que moralement, quand on ne puisse pas abuser d'une situation de prière ou de surmission de la vie pour bénéficier de ce moment-là.
On peut dire le contraire. De là, on apprend qu'on peut faire traiter ses affaires pendant qu'il y a un schéma.
Ouais, c'est ça. Non, c'est-à-dire que
Ah non, Gretchen Mal, c'est pas entretien avec le trou. Là, celui-là, je veux bien. Pas écrire Shema.
Ah bon?
Ah non. Entretien avec soi-même, c'est Shema Israël.
Ah,
c'est pas la fille, là. C'est pas la amie, là. Non, mais vous pouvez dire, il y a devoir jouer, mais qu'est-ce que ça change ici? Comprenez, il a beau faire ce créa schéma, il est quand même suffisamment concentré sur ce qui est autour de lui pour entendre la proposition, savoir que l'autre il continue à monter, il a très bien retenu le chiffre en question et être clair que c'est ça qu'il voulait. D'accord. On apprend beaucoup de choses sur créa schéma. En tout cas, la question c'est donc, en fait, comment on peut comprendre un. Je vais dire, il y a un cas pareil, qui est vraiment un cas même répertorié à la halakha, c'est. Dans Maasrot, c'est un cas un peu particulier. Voilà. Il faut que je l'explique parce qu'il a une portée quand même limitée. Il y a dans les fruits qui grandissent en Eretz Israël, qui poussent en Israël, donc il y a une mitzvah de Maaser. D'accord ? Maaser, c'est donc la dîme qu'on prélève et qu'on donne aux livres. Maintenant, là-dessus, la question s'est toujours posée de savoir, mais est-ce que tout le monde prend le Maaser ou prélève le Maaser ? C'est-à-dire, normalement, c'est l'obligation de celui qui, on va dire, c'est celui qui a fait pousser les fruits, etc. C'est lui qui doit prélever une partie et la donner au Lévi. Maintenant, quand les denrées en question arrivent sur le commerce, la question est de savoir, mais il l'a fait ou il l'a pas fait ? Parce que quand même, c'est 10%. Ouais. Donc là, alors il y a ce qu'on s'appelle un certain doute, dans une certaine mesure. Et une catégorie de gens, ce qu'on va appeler donc les chaverim, donc les, comment on les appellerait chez nous, le people, ouais, je sais pas quoi. Les importants, ouais. Ils ont donc ce problème, à savoir, je suis pas sûr que ces fruits-là, ils ont été rédimés. On n'a pas le droit de manger un fruit qui n'est pas rédimé. Alors c'est ce qu'on appelle un maaser qui s'appelle du maï. Ça veut dire une sorte de maaser safek, une sorte de dîme qu'on prélève dans le doute. D'accord ? Alors la situation maintenant est la suivante. Donc ça signifie que quelqu'un de cette sorte-là qui vient, dès qu'il achète des fruits d'une personne dont il n'est pas certain qu'elle est prélevée, alors il a ce doute-là. Il doit prélever. Voilà. Inversement, ce monsieur, quand même, bon, c'est pas juste un people, quoi. Il a le comportement inverse que s'il vend des fruits, c'est sûr qu'ils doivent avoir été par lui rédimés. D'accord ? Alors, donc c'est une situation particulière. Dès que j'acquiers quelque chose, je dois, moi, en fonction de mon comportement, je dois ici maintenant, j'acquiers quelque chose dont je suis pas sûr que ça a été rédimé, je dois les rédimer. D'accord ? Tout ce qui sort de mes mains, tout ce que je vends, tout ce que je transfère, ça va être rédimé par moi, si je ne suis pas sûr de la source. Alors, il y a la même situation. Quelqu'un, donc, il va au marché. Moi, ça nous arrive tout le temps. On va au marché. Alors, on prend les fruits, on les soulève, on les regarde, etc. Alors, vous comprenez, normalement, c'est un geste kinyan. Non, ici, ce n'est pas un geste kinyan. Faire, comprenez, il y a un prix qui est fiché dessus. D'accord ? Je sais bien quel prix, je sais que le type, il vend, il est là pour ça. Moi, je prends le fruit, c'est à moi. Tant que je suis en train de les choisir, je les prends, je les repose, c'est jamais à moi. Maintenant, je le prends comme ça, je dis celui-là, je le prends. Dans mon esprit, je me dis celui-là, je le prends. Alors, question maintenant, d'après son avis d'après Rav Safra, petit problème. Si finalement je change d'avis, qu'est-ce qui se passe? Normalement, en termes de halakha, rien. En termes de dîme, rien. Mais si je suis quelqu'un, alors le Rambam il appelle ça Yire Shamaim. Justement, pas cette crainte-là. Alors, en tout cas, si je suis quelqu'un, disons, qui a un peu d'Oberbeck du Bavo, qui a un peu de souci de la vérité, de ce qui se passe en moi, alors regardez bien ma situation. J'ai pris un fruit et j'ai pensé qu'il était à moi maintenant. Lui, il est là pour vendre, c'est sûr. Donc, j'ai pensé qu'il est à moi. Moi, je suis quelqu'un qui, quand je donne quelque chose, il faut que ce soit rédimé par moi. Je suis pas sûr de la source, j'ai l'obligation de le rédimer. J'ai l'obligation de prélever ma serre. Vous voyez la situation ? En termes, on va dire comme ça, de kinyanim, on va dire généraux, etc. Réglementation, non, il n'y a rien, personne. Le problème, c'est que lui, s'il s'appelle Doberevet Bilbabo, ça veut dire, dans son cœur, il a pensé à ce moment-là, bah, c'est à moi, or c'est sûr qu'il a l'accord de l'autre, puisqu'il a pour moi. Ouais ? Alors le voilà maintenant avec l'obligation de prélever le maaser. Ouais ? Après, ça fait des tas de problèmes, c'est comment ça se fait avec cette situation, c'est très compliqué. Ça, c'est un exemple. Alors évidemment, encore une fois, c'est un exemple qu'on appelle Midat Hassidut. C'est un exemple de quelqu'un qui fait plus que ce que la Torah, l'accord entre les hommes, etc., la confiance mutuelle impose. Mais vous voyez que la question, quand on traite ces problèmes de Midat Hassidut, ça veut dire qu'on touche au cœur du problème. C'est quelqu'un qui est Hassid, hormis les quatre Hassid Chodé. Quelqu'un qui est Hassid, ça veut dire quelqu'un qui a compris la Torah, qui fait un pas de plus, mais dans la direction de la Torah.
Bah, dans une autre direction, on s'en fout.
Ça signifie que donc ce genre de geste est révélateur, ce genre d'attitude de Riou, cette obligation qui naît subitement, c'est révélateur de ce que la Torah, au fond, elle pense de la nature même du Kinyan. Ça signifie, en d'autres termes, il faut bien distinguer disons, les différents niveaux par rapport à tout ce qu'on a dit. Qu'il puisse y avoir des conventions qui nous obligent, tout le monde le sait. D'accord ? C'est pas une nouveauté. Que ce soit le cœur des affaires humaines, c'est pas sûr du tout. Et probablement, le Chazonich et le Moshe ont raison, en savant que d'abord, le cœur des affaires humaines, c'est la relation intersubjective dans laquelle l'autre il place sa confiance en moi. Ce qui crée des difficultés pour gérer, pour analyser, pour faire des lignes amitimes quoi, dans cette question-là. Mais quand on revient sur le fond du Kinyan, qu'est-ce qui fait que finalement, je pense, cette chose-là, je l'ai acquise ou cette chose-là, je l'ai vendue ? En fait, si je suis capable d'observer dans mon cœur, c'est simplement mon accord devant une proposition. Je suis d'accord, j'étais d'accord. Dans mon esprit, j'ai pensé, ouais, c'est bon. Si je suis un chassid, c'est terminé. Je ne peux plus revenir. Pour reprendre le problème qu'on a posé tout à l'heure, je termine avec ça. Vous voyez, tout le problème qu'on a dans les kinyanim, tous, ça veut dire on est tous pareils, c'est que on a du mal à s'engager, et puis quand on est engagé, très souvent on sent que ça glisse. Parce que je pense que c'est arrivé à plein d'entre nous, que qu'on se le reconnaisse ou pas, très souvent on se mord les doigts des affaires qu'on a faites. Ouais, surtout des affaires un peu importantes, etc. Donc, et on peut prendre même dans l'autre sens si vous voulez. Supposez par exemple, je vends quelque chose. Je tiens, mais j'ai besoin d'argent. Et après un moment, je peux considérer que moi je me suis libéré de cette chose-là. Peut-être dans mon esprit, mais parce que j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent. Supposez qu'on ait besoin de l'argent. Je dis, ah non, je veux plus. Hein. On est tous pris avec ce genre de problème, à savoir qu'on a du mal à saisir exactement qu'est-ce qui se passe au moment donné où je suis. On va dire comme ça, c'est clair, tu ne peux plus revenir maintenant, n'est-ce pas? C'est évident maintenant, l'accord est scellé. La difficulté donc, que nous propose ici, qu'on voit grâce à ça. Ce qu'on peut appeler une midat hassidut, c'est de savoir est-ce qu'on est capable de voir clair dans son propre cœur pour dire mais ici, j'ai ce qu'on appelle j'étais gomer da'at. Ici, j'ai accepté. J'ai accepté, je ne peux plus avoir. Je ne peux plus revenir. Le difficulté à nous, elle est telle. On va dire, les réglementations modernes, elles font même qu'on a un délai de réflexion après l'achat. Ce qui est inouï, ça veut dire au sens, en terme, on va dire comme ça, de presque même d'infantilisme. Quoi, je veux dire, ça va, le truc tu l'as vu, tu l'as acheté, tu as pesé, tu l'as pris, quoi, c'est bon. Non, de l'aide réflexion. Et je suis engagé quand alors? C'est la question. Le point de vue de la Torah ici qui m'en est par Asafra, exactement l'inverse de ça. C'est, évidemment, c'est pas accessible à tout homme. Pour ce sens que ça demande un gros travail sur soi-même. Mais le point de vue ici, c'est que dès lors que finalement, dans une affaire, j'ai donné mon consentement, tiens, ouais, je suis d'accord. Ouais, le fait qu'on puisse dire, que pour le commun des mortels, pour moi par exemple, il faut des gestes de kinyanim, c'est parce que vous comprenez, si l'autre, comme dans l'histoire, la Safra, il augmente son prix, je dis, ouais, je vais agrandir ma machine à laver, mon laver, c'est le machin, pour mesure qu'il augmente. Je vois pas pourquoi je vais m'arrêter, je vais dire le premier prix. C'est moi, la vérité du rapport que j'ai moi avec tel objet, je vends une mara, je m'en fiche, je vends ce truc-là. La vérité de mon rapport avec cet objet-là, c'est qu'à un moment donné, dans mon cœur, c'est fini, je t'ai vu. Et a priori, donc moi j'aurais dit que c'est ça le fondement de tous les transferts de propriété, toutes les affaires de Kinyanim. Qu'on ne soit pas capable de ça, parce qu'on a des tas d'intérêts qui rentrent en jeu et des tas de problèmes psychologiques qui rentrent en jeu, c'est une autre question. Ça va imposer que nous, on va avoir des. Il nous faudra, oui, alors tu fais ce geste là, ou tu prends ta kippa, tu fais je sais pas quoi. Ouais. Parce qu'il faut bien à un moment donné, au moins, je me dis, bon, ça va, c'est clair, tu l'as vendu. Mais en réalité, si on doit sonder la question, le fond de l'affaire, c'est simplement. Simplement un acquiescement, une proposition. Et une fois que cet acquiescement il est acquis, alors ce qui se passe après quand peut. Voilà. J'arrive très rapide, c'était très rapide. Ce problème est très vaste.
Concernant le cas de Rastafra, a priori c'est un peu ce que tu crains. C'est là où j'aurais pas bien saisir que maintenant tu fais toi.
Bah, c'est ça.
Il y a des commerçants de lui donner à ce prix-là.
Ouais.
Et l'autre aussi, ce qu'il a compris, même si on va dire. Ils se sont croisés, entre guillemets, mais
tout le problème soulevé, c'est pour ça que j'aime bien le Moshe. Parce que le Chazon Ish, il a deux expressions. Gomer Daato ve ensuite Kraveru Ismochala. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux, c'est pas la même, hein? Je lui fais une petite critique, je veux dire, c'est quoi ce truc, t'as une double définition maintenant? Si je prends, comme il se réfère à la chute du Oel Moshe, alors dans le Oel Moshe c'est marqué, Gomer Daato c'est une chose, mais complètement bâtel. Gomer Daato ça veut dire simplement, bon t'étais d'accord, évidemment t'étais d'accord sur ta propre transaction, mais c'est surtout parce que l'autre, ici, il pense que tu t'es engagé. Alors c'est fini, t'es engagé. Donc quand je prends la formule du Khadon, c'est marqué Gomer Daato, donc dans son esprit, il a conclu l'affaire, et quoi? Et l'autre, il est sommaire sur lui, et l'autre, il pense que ça y est, c'est fait, et maintenant, il a foi en ce que je dis. Attends une seconde, c'est la même chose? Alors si j'en crois son renvoi à la chute d'Oel Moshe, tout ce qu'il veut dire, Gomer Daato, c'est pas grand-chose. Hein. Il veut dire, il a pris la décision, d'accord, mais l'essentiel, c'est que l'autre, en fait, maintenant, il pense que toi, t'es engagé. Alors c'est fini, t'es engagé. Ouais? Alors le cas de Rav Safra, c'est le cas dans lequel l'autre il pense pas du tout que je suis engagé. Mais pas du tout. C'est pour ça que c'est même pas plaidable dans un tribunal, un truc pareil, que ça veut rien dire. Il pense pas du tout que je suis engagé, au contraire, il pense que de toute façon, je suis pas d'accord avec lui, je veux pas de ce prix-là, c'est ça qu'il pense. Et donc il augmente le prix. Donc malgré que l'autre il pense que je suis pas engagé du tout, Rav Safra considère que oui, il est engagé. Ah, j'ai déduit que finalement dans la formule Razonich, il faut plutôt appuyer sur la Recha, quoi, sur le début. Et que, je suis désolé, l'aspect sur lequel on va dire l'autre, il est sommaire sur moi, et bien sûr cette dimension elle existe, c'est pas ça la question. Mais je dis, mais c'est pas ça qui fait le cœur du transfert de propriété. En fait, il suffit que l'autre a fait une proposition, ce qu'il pense maintenant, j'en sais rien, il est en train de converger ailleurs, mais moi j'étais d'accord. Bah, la proposition est lancée, je suis d'accord, ben bah, voilà.
Le levier là-bas, c'est celui qui est dessaisi de plus.
Ouais.
C'est là-dessus en fait que.
Mais toujours il y a quelqu'un qui se dessaisit, fais attention.
Pardon?
Toujours quelqu'un se dessaisit. Si j'achète, je sais pas moi, ta bouteille d'eau pour 100 francs, je me décide de 100 francs. Mais j'ai dit, je me décide de 100 francs. Tu as dit d'accord. Encore une fois, ça veut dire, c'est pas plaidable devant un tribunal, une chose pareille. Si après les parties commencent à râler et tout, rien à dire. Ben quoi, t'as dit, j'ai dit, on s'en fout de ce que t'as dit. C'est plaidable juste dans les circonstances dans lesquelles on peut dire, non mais ce que t'as dit ici, l'autre, forcément, il était sommaire sur toi. Forcément, il a cru en toi. Le cadre à sa phrase, c'est rien de tout ce qu'appelle Midat Hassidut. Ça s'appelle, ce que le Rambam traduit, Yireh Shamayim, c'est-à-dire donc quelqu'un qui a bien compris le problème, en tout cas, Dover Evet, il parle clair dans son cœur, il parle vrai dans son cœur, il dit, ben, j'étais d'accord. Mais quoi? Une femme et des enfants à nourrir, elle n'a pas le propriétaire de rien. Il n'y a pas une femme et des enfants à nourrir, le propriétaire de rien. Le business sacré.
Non, mais
ce qu'on peut dire, par exemple, par rapport à ce que vous dites, c'est que ça suppose un arrachement par propriété, mais c'est pas un autre plan. C'est, on va dire comme ça. C'est que si c'est vrai. Mais vous comprenez, il faut être capable de ça, parce que nous on n'est pas capable de ça, mais d'une certaine façon on le pense un peu. C'est que on n'est jamais vraiment propriétaire de quelque chose, en ce sens que toute chose a un prix. C'est-à-dire, dans mon esprit, et je crois que c'est vrai pour tout homme, mais c'est pas toujours le même genre de vérité. Toute chose à laquelle je tiens, j'y tiens jusqu'à proportion d'un certain prix. Quand on s'aperçoit de ça, on s'aperçoit que notre relation de propriété, elle n'est pas aussi entière qu'on le croit. Et que ça peut basculer vite. Dans notre esprit, ça peut basculer vite. Même si je suis très attaché à quelque chose, même si la Gemara dit aussi qu'un homme ne vend que Béonès. On ne vend que sous la pression, quoi, sous la pression des besoins, etc. Bon, je ne pense pas qu'elle parle du commerce moderne, mais disons quelqu'un qui a des objets qui lui appartiennent, une terre, une maison, un machin, etc. En général, il ne s'en débarrasse pas comme ça. D'accord ? Il y a un attachement qui existe, et puis il y a à la base cette relation avec l'objet en question. Et on vend que parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais comprenez bien, c'est, quoi qu'il en soit, la nature même du commerce humain, c'est qu'en fait, tout est à vendre. Tout. Je ne parle pas de morale hein, maintenant. Je parle simplement du rapport qu'on a avec les objets. C'est à moi, j'y tiens. C'est à mon grand-père, j'ai machin, etc. Très bien, on m'a proposé 10 millions. Ben, j'ai mon prix. Hein. Ça signifie que dans mon esprit, la somme en question, elle vient parfaitement en compensation de ça. Je suis propriétaire de mon objet, Ben, en fonction du prix qu'on propose. Je suis très sérieux quand je dis ça, parce que je pense que c'est le fond de la question de tous les échanges humains. C'est qu'on considère en fait que la propriété, ça circule, parce que dans l'esprit de tout le monde, en fait, il y a une certaine valeur. Et que la question, c'est juste de fixer la valeur. Et je pense que quand il dit que le revenu de la vaut par rapport à ça, c'est quel que soit l'objet en question, tu es d'accord à un certain prix, tu es d'accord à ce prix-là, alors l'objet a déjà circulé. Mais évidemment, ce n'est pas la meilleure tracée d'une compréhension générale, d'accord. Sauf sur cette question, donc, disons, de s'apercevoir donc, que pour nous, la propriété, ce n'est pas une chose, comment on pourrait dire, fixe, intégrale, comment on pourrait dire, comme si c'était un bloc sans fissure, etc. Hein? Un droit naturel ou inaliénable, etc. Mais parce que c'est une question en soi, ça veut dire au sens, s'il y a du commerce entre les hommes, c'est que dans notre esprit, il y a toujours une balance quand même. Et que telle chose, je suis attaché jusqu'à certains prix, c'est tout. Le prix a été dit, il a été proposé devant moi, ben, en fait, je suis d'accord. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète. Hein.
Ça n'a plus rien à voir après avec une relation avec un autre. Ça a une relation à voir qu'avec soi-même ou avec un objet.
Ouais, c'est ça que je voulais mettre
c'est
en avant ici.
En fait, qui est complètement annihilé, en fait.
Pourquoi annihilé?
Parce que j'en tiens pas compte. Même si lui est prêt à donner ses 200, 300 en étant dans la salle.
Ouais, exactement.
Et que c'est mon intérêt, j'en tiens pas compte. Je tiens compte de ce que de ce que j'avais moi dans mon cœur au moment où j'ai pensé, bah, ça, c'est déjà bien, je suis d'accord.
Ouais.
Ça veut dire que ça n'a plus de rapport avec lui.
En tant que tel, c'est juste. C'est juste. En tant que tel, c'est juste. C'est le point que je veux mettre en relief, non, Rav Safra. C'est pas une relation intersubjective qu'on en a parlé avec. Même encore une fois, cette dimension existe. Hein, je ne veux pas remettre en question qu'elle existe, cette dimension. Mais on voit que la question du transfert de propriété, elle n'a même pas besoin de ça. Elle n'a même pas besoin de ça. Même pas besoin du fait que je suis engagé devant l'autre, je ne peux plus le retirer, etc. Non, mais d'abord, il y a un problème vis-à-vis de soi-même. Au niveau de ce qui s'appelle d'Oberwet du Lavaux. Je parle vrai dans mon cœur. Jusqu'à quel point j'y tiens à cet objet pour dire c'est le mien, c'est le mien, c'est le mien.
Oui,
ben, jusqu'à ce prix-là.
Il n'y a pas un problème avec la notion de parole. Par exemple, je ne sais pas si ça a quelque chose à voir, mais quand on fait un acte, c'est quand même une valeur plus importante qu'une pensée, même si je sais qu'on dit qu'il y a des pensées qui peuvent être sanctionnées parfois.
Mais c'est le même problème. Oui, je
c'est plus ce problème-là. Est-ce qu'à un moment donné, je ne dois pas me fier quand même à un acte, parce que sinon, c'est un domaine évidemment subjectif. Il n'y a rien sur lequel se fier à part ma conscience avec moi-même. Donc, à un moment donné, dans le Judaïsme, on dit bien que les actes, ça a quand même une valeur plus importante que simplement la pensée. Si je pense une transgression mais que je ne la fais pas,
statut contradictoire. Statut contradictoire. Parce qu'en termes de châtiment, il n'y a pas de châtiment, mais on dit cachim, verra, mais avera. Ils sont plus durs. Alors, maintenant, elle a interprété ça.
Les châtiments sont plus durs envers la pensée qu'envers l'acte.
Pardon ?
C'est ça, on dit que les châtiments sont plus durs envers la pensée.
Non, non, on n'a pas dit châtiment. Non, châtiment, de tribunal, c'est jamais sur des pensées. Et on n'a jamais dit que le châtiment d'Hachem en tant que tel, c'était sur des pensées comme telles. C'est une question, mais c'est, je dis, c'est statut contradictoire. Mais ça relève du problème qu'on est en train de parler. Comprenez, par rapport à la Avera, a priori, il y a deux choses qui n'ont strictement rien à voir. Moi, je suis une usine à ce qui s'appelle Hérorim, à des cogitations sans cesse. C'est une chose. Le passage à l'acte, ça suppose de ma part, on va dire, on appelle ça même dans la Torah, quoi, une chutzpa, ça veut dire, supposer par exemple que l'Hérorim que je cogite, c'est sur le dos de l'autre. Ouais? Je le volerai bien, je lui prendrai bien son truc, etc. Toi, pour rester en dessous, gars. Ouais, ok. Donc, toi, tant que tu cogites, tu sais, tu lui as rien fait. Rien fait, ça veut dire, bah, en fait, dans la réalité, j'arrive devant lui, et puis, bah, tous mes trucs, ils s'effondrent. Hein. Ça, c'est comme, par exemple, on pense des tas de choses sur lui, ouais, c'est un sale type, puis ceci, machin. On le voit, on l'arrive, il est tout sourire. Voilà, toutes nos cogitations, elles ont dégagé. Tant que moi, je suis pas.
Le chenara, c'est la parole, tant que j'ai rien dit, même si je pense.
Oui, exactement. Mais, donc, dans la Averot, vous pouvez faire 2 degrés. Vous pouvez dire, moi je cogite dans mon esprit, mais quand je suis en présence de l'autre, finalement ça s'effondre. Ce qui veut dire, j'ai quand même un certain respect de l'autre. Ouais, je pense que quand je vais le voir, je vais lui mettre un coup de poing dans la figure. Quand je vais le voir, tu vois, quand je le vois, en fait, non. Non. J'ai beau cogiter dans ma tête, ça n'a rien à voir avec le fait. Mais quand je dis le fait ici, autrui il existe. En d'autres termes, c'est, même pour moi, ça n'a pas la même gravité. Mais maintenant, supposer que c'est un autre problème. Je dois céder quelque chose. Supposons par exemple, on parle autrement. Je dois faire un sacrifice de quelque chose. Ouais, parce que je sais pas, j'ai fait mes comptes ou bien j'ai promis ou bien ceci ou cela. Je dois faire un certain sacrifice. Céder quelque chose. Ouais, ça compte exactement l'autre ou c'est un problème personnel? à partir de quel moment l'affaire elle est réglée pour moi? Lorsque clairement dans l'esprit, je le ferai ce sacrifice. Prenez les choses autrement, c'est même au niveau, on va dire, du. Même en termes de Torah, du srout. Supposé. Je dis oui, je vais envoyer mes enfants dans une grande école de machin. Donc il va falloir que je travaille deux fois plus. Ouais, ok, les choses les plus. Alors maintenant, après, je peux trouver du travail ou pas. Ok? Mais le gros du travail, c'est quoi? C'est pas par rapport à moi-même. C'est pas quand moi je dis bon, je vais faire sacrifice, que je vais m'enlever. Je vais m'ajouter 2 ou 3 heures de travail par jour, etc. Après, j'aurai l'opportunité ou pas. Mais moi, sur la part essentielle, je l'ai gagné ici. En termes de sroute, ce sroute, je l'ai. La sroute de celui de quelqu'un qui est prêt à faire ça. Quand je dois céder quelque chose, alors c'est tous les problèmes de transfert, ils sont comme ça. Vous savez, c'est pas compliqué. Si je garde le billet de 100 francs dans ma poche et en même temps j'ai l'objet de l'autre, je suis content. Mon problème à moi, c'est que lui, il doit céder l'objet et moi, je dois céder les 100 francs. Chacun doit céder. Alors, je veux bien encore une fois rendre tous les mécanismes intersubjectifs, mais au bout du compte, qu'est-ce qui se passe? Le travail, il est vis-à-vis de moi. C'est moi qui dois accepter finalement, moi, et je débourse 100 francs. Si ça, je l'ai accepté, ben alors quoi? Qu'est-ce qui reste maintenant? J'ai encore quelque chose à accepter? Tout est bon. Il n'y a pas de généralité au sens. Je dis encore une fois, quand il faut régler les choses devant un bétine ou encore, quand il faut être mechayef quelqu'un, lui dire mais dis-moi ceci, cela, alors, il faut lui parler son langage. J'ai pas dit que n'importe qui est capable, dès qu'il a sorti le billet, d'avoir compris qu'il voulait débourser les enfants. En fait, il le tient encore et puis il ne lâchera pas, punaise, il veut l'arracher. Ouais, d'accord. Mais si quelqu'un il s'appelle Dobarevet Bilbao, c'est très bien que dès qu'il amène à la poche, c'est fini, ça veut dire qu'il a sorti le billet. On ne peut pas imposer à quelqu'un des règles qui ne sont pas pertinentes avec lui-même. Donc on peut dire, tant qu'il n'a pas mis l'argent dans la main, il n'a encore rien fait. Parce qu'il faut jusqu'au moment qu'il va tenir le billet, puis il a lâché, oh mon Dieu, il a lâché. Ouais, bah oui, on a un mal fou à se déprendre. Mais quelqu'un qui perd dans son esprit, non. Et c'est suffisant. Vous comprenez ce que je veux dire? Tous les problèmes de Kinyanim, je pense, et je crois que c'est ça l'idée de Rav Safa, à la base, c'est qu'il faut accepter cette perte. On perd quelque chose. Mais lorsqu'on l'a accepté, qu'est-ce qu'on veut? Il n'y a plus rien maintenant. Par l'accord en fait, l'autre a fait une proposition. Mais si, l'autre a fait une proposition.
Oui, il a fait une proposition qui n'a pas été reçue dans son esprit, dans l'esprit des mandats ou des valeurs. Donc, pour tout, la valeur de l'objet ne va pas dépendre de l'échange, mais va dépendre de l'estimation.
Ouais, c'est vrai. Et c'est pour ça que moi je vous ai répondu tout à l'heure comme ça, que. À mon avis, le fond du problème, c'est que tout objet dans notre esprit a un certain prix.
Oui, donc,
c'est oui, mais c'est subjectif.
Oui, non, mais j'en allais à l'idée que c'est pas si souhaitable qu'on ait la dimension subjective aussi. Parce que ça introduit un jeu dans ma relation à l'objet qui peut m'amener à remettre en question la valeur que j'attache à cet objet, de ne pas forcément. La proposition initiale était la plus bas.
Ouais.
Donc, là, j'étais dans ma prière. Non, c'est pas une prière.
Oui, chrétien, peu importe. Ouais. Alors.
Peut-être d'accord. Mais ce qu'on dit quand même, c'est une approche d'exécution préalable, préliminaire.
Bon, c'est pas
un problème. Mais quand même, il y a une proposition à plus bas. Je suis dans ma cheminée. Il n'a pas atteint le prix pour lequel j'étais prêt à céder. La transaction n'a pas lieu. En revanche, il pousse la transaction à un niveau d'un prix plus élevé. Là, la transaction a lieu parce que l'estimation que j'ai du prix de la valeur du bien que vous possédez, elle est atteinte.
Alors
le rôle de l'échange et de la mise en question de la valeur que je peux attacher à l'objet, il y a une sorte de fétichisme d'admiration de l'objet qui ne relève pas de la médiation. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de avoir de relatif dans mon rapport à l'objet que je possède.
Vous dites, la Gemara, elle pense qu'on ne voit que Bohanès, que sous la contrainte, en fait. Mais c'est un problème très général, hein, je veux dire, est-ce qu'il s'est déjà arrivé qu'un homme, il cède quoi que ce soit, il sacrifie quoi que ce soit, s'il n'a pas un cas de force majeure? A priori, je veux dire, on n'est pas. C'est pour ça que ça dépend où on prend les choses, mais un être humain, on va dire, normalement constitué, il veut tout, quoi. Il veut rien lâcher et tout avoir. Tellement ça, je veux dire, quand on vend, c'est très bien, tout client veut le mouton à cinq pattes, alors toujours, il faut vous trouver en quoi ce truc-là est mieux que l'autre, parce que je te raconte pas ceci ou cela. C'est tout le baratin commercial, quoi. Ouais, c'est comme ça que ça marche. Le type, il veut tout, et moi, de mon côté aussi, quand je veux tout, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Comment on est fini avec notre assez d'autres?
Autant l'acheteur que le vendeur.
Ouais, autant l'acheteur que le vendeur. Tout le monde veut tout.
Là, c'est lié, là,
c'est pas parce qu'on met en avant une dimension, on va dire comme ça, d'un manas, c'est-à-dire de confiance réciproque, et elle existe, elle est à la base du commerce. Mais le fond du problème pour chacun, c'est ce qui cède, et ça c'est son affaire personnelle, c'est complètement privé. Mais tout ce que vous dites, c'est, je pense que c'est en jeu dans cette Gemara qui pense qu'on vend que Bohanès. Non, on va mettre on vend que Bohanès. Sinon, il n'y a aucune raison qu'on se sépare de quelque chose. Ce qui veut dire, oui, quand on dit, il y a un fétichiste de l'objet, très bien. Exact. Mais je ne suis pas sûr qu'on est obligé d'en faire de la psychanalyse.
Non, de là. Oui, que la méthode assidoute renforce cette idée.
Pourquoi la renforce?
Parce qu'elle élimine la mise en jeu de ce rapport de la valeur qu'on attache à l'objet. S'il y avait vraiment Odès, si j'ai vraiment besoin d'argent pour m'en déposséder, qu'il y ait négociation et mise en question du niveau auquel l'autre est prêt à accepter d'acheter, ça peut.
C'est pas très bien ce que ça fait gagner que l'autre y remette en question mon prix. Juste, il m'ennuie la vérité. Non, je veux dire, non, je parle d'Oberevet Vilvavo. Parce que mon tracé, c'est toujours joli, quoi. Je veux dire, sur le dos des Irishamais, on pleut plein de conneries. C'est Oberevet Vilvavo. L'autre, il veut pas de mon prix. Qu'est-ce que je pense? Il m'ennuie. Et je suis gentil. Parce que. On parle vrai. On parle vrai, ça veut dire non, dans mon esprit, c'est la balance, elle se pose pas là. Alors, comprenez, si je suis sous la contrainte, alors j'ai pas le choix, il me prend à la gorge, je suis obligé, machin, je lui vends. Mais c'est la mort dans l'âme que je lui vends. On peut pas dire que cette chose-là, elle soit. Non, je pense, je dis sérieusement, hein, je pense, pour ce qui est vrai de notre cœur, l'autre, il n'a rien à dire sur le prix. C'est pas parce qu'on fait des samalekoum qu'on fait du business comme ça, ça veut dire au sens, je te dis 100, non, tu me dis 50, non, je te dis machin, on arrive à 75. Ouais, je dis ça, c'est bon pour la grande tout ça. La vérité, je veux dire, c'est qu'on a appris que ce prix-là, c'est celui-là. Sauf, encore une fois, on est pris à la gorge. Mais, comprenez, c'est. Il y a des techniques pour prendre quelqu'un à la gorge, c'est pas ça la question. Mais du point de vue moral, tout le monde considérera que, mais pourquoi tu l'obliges à vendre à ce prix-là? Il ne va pas vendre à ce prix-là. Lui, il a un prix. Quelles que soient les considérations pour lesquelles il a ce prix-là. On n'est pas habitué que notre racine d'autre ce soit d'Oberwet Bilbao. Que normalement, le racine, c'est un menteur. C'est un menteur. Un type qui dit moi je parle vrai dans mon cœur, on appelle ça un sauvage en français. Quoi, tu dis ce que tu penses? Mon Dieu, tais-toi. C'est juste, hein, je suis d'accord avec vous. Par exemple, dans Rachid sur Télé, là-bas, sur Soumise, bon, il ne ramène pas la Gemara de Rav Safra. C'est quoi d'Oberwet Bilbao? C'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense, ce qu'il a dans le cœur. Il dit bah, il n'est pas hypocrite, quoi. On n'appellerait jamais ça en français un racine, on appelle ça un sauvage. Tais-toi, qu'est-ce que tu fais en société, toi? Bon, voilà. Attendez, j'ai dit juste que le Rav Moshe, quand il parle de ce qui s'appelle de l'engagement par la confiance que l'autre y place en nous, il fait tenir toute la Torah là-dessus. Il dit que ça, c'est pas le point que moi j'ai soulevé dans Rav Safra. D'accord ? Moi, je ne prétends pas faire une critique de tout ce qu'il a dit, etc. Je dis simplement, il y a un point qui m'intéresse, c'est transfert propriété. Mais lui, donc le Moshe, il dit que, qu'en fait, la base même par laquelle un être humain est engagé dans n'importe quel contrat, n'importe quelle brique, n'importe quelle alliance, n'importe quel pacte, la base, c'est que l'autre est sommaire d'atoile. Ça veut dire que l'autre, il compte sur moi et il a foi en moi. Alors je suis engagé. Voilà ce qu'il dit. Il dit que ça, c'est la base d'atoile.
C'est suffisant ça ? Parce que, par exemple, dans le cas du Pierre Sénèque ou du Pierre Richard, il peut avoir accepté dans son cœur de prendre tel ou tel. Il n'a qu'à son statut que devant témoin. Et là, il y a besoin d'un témoin extérieur. Le fait de l'accepter dans son cœur ne suffit pas.
Mais c'est parce qu'il faudrait faire la soulève dans Guéroult. Moi, la question, elle est. Il faudrait demander à la base pourquoi il y a besoin d'un Bédine pour faire des routes. D'accord ? Et parce que normalement, on devrait dire qu'il n'y a pas besoin une fois qu'un homme. Mais il faut savoir que dès que. Parce que le problème est suivant, c'est un peu la même chose quand on parle de l'acquisition d'une femme, etc. Quand on a besoin de Bédine ou de témoins, etc., c'est que c'est pas seulement nous qui sommes engagés, c'est l'autre aussi. Alors, il faut savoir, c'est-à-dire, quand un guerre, il fait des routes, enfin, moi, c'est comprenez bien, il y a très peu de thèmes sur la question, donc vraiment, je vous dis, c'est mon option. Il faut comprendre pourquoi il faut un bed-in pour faire une guéroute. Même si c'est trois idiotes, trois simples qui font ça. Mais, parce que le problème, c'est que si quelqu'un est guerre, il oblige tous les autres à le considérer comme Israël. Et donc, on est tous rayables les mitzvot, toutes les mitzvot d'Israël vis-à-vis de lui. Ça n'était pas rayable avant. De la même manière, quand un homme il prend femme, il interdit cette femme à tout le monde entier. D'accord ? C'est pas juste une affaire entre eux. Donc, c'est pas quelqu'un qui vient dire moi, je décide que toute la Torah c'est bien. Ben, va cacher, c'est ton problème. Mais. Quand il dit que je suis guerre, il dit toi, tu es obligé de me considérer comme un Israël et toutes les mitzvot, tous les riouvim, tu dois garder avec moi. C'est comme ça que moi je comprends tous ces problèmes hein, de, qu'il faut édouter, qu'il faut des. Comment dire, un béni, etc. C'est que dès qu'on engage les autres, en fait on engage tous les autres, hein, je veux dire par ça, alors il faut leur accord. Hein, il faut leur accord. Même un béni, même un béni de idioton, un béni de simple, de gens pchoutis, vous pouvez faire, vous mettez trois, vous faites un béni pour faire. On ne vous tape pas dessus, c'est un problème. Mais là, en fait, du point de vue du dîme, parce que, comprenez bien, ça veut dire, ce monsieur demande à ce qu'on le traite comme Israël, bah, il faut l'accepter. D'accord, quittez, attends, montre un peu. On devra maintenant, on doit tout faire pour toi. Parce que, ça veut dire, si on est soucieux des relations avec la Mechabero, ça va nous coûter très cher, hein, en termes d'argent, moral, etc. Donc, il faut l'accepter. Enfin, c'est comme ça que je le comprends. Encore une fois, il n'y a pas de. Mais le problème que lui il soulève, c'est un autre problème, c'est que toute la Torah est construite sur la notion de brique. Il y a un brique entre vous et Dieu. Bon, et alors ? Si je ne suis pas engagé, c'est comme si tu as toujours la raison, mais tu as trahi sa confiance, parce que vous, tu n'as rien d'autre à dire. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Tu as accepté les mitzvot, donc maintenant tu es réhab, c'est-à-dire, j'ai levé la main, mais non, je ne vais pas là où ça, je vais aller aux toilettes. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai plus de rapport. Quel rapport ? Tu as accepté les mitzvot, tu es réhab. Mais non, c'est parce que dans cet accord-là, chacun est sommaire derrière toi là. Je dis oui, je m'en engage vis-à-vis de toi. Et donc toi, quoi, après, bah, je travaille ta confiance. C'est ça qu'il veut dire. Mais je pense que c'est très peu contestable, hein, parce que la Torah elle-même, pour s'exprimer, elle s'appuie sur des notions. La notion de brique, elle est fondamentale. Et c'est pas une notion inventée par la Torah. Je veux dire, ça existe entre tous les hommes. Donc on est obligé de prendre à la base, qui a eu, comment dire, un point de vue complètement humain sur la question, c'est-à-dire, mais je ne travaille pas la confiance de l'autre une fois que je suis engagé. C'est tout simplement ça qu'il veut dire. Mais je dis, son point de vue est très difficilement contestable parce que la Torah elle-même s'explique comme ça. Elle parle comme ça, elle dit, mais il y a un brit entre vous et Dieu, il y a ceci et cela, et si tu ne fais pas, alors je te dirai, machin. Donc à la base, ça veut dire qu'on est engagé quoi, dans un brit. Comment on est engagé ? Il n'y a pas eu, comprenez, il n'y a pas eu de masse équinienne, du genre, je te soulève, t'es à moi, machin. Ben non.
pas.
Avec le fait que ça se passe de parole, ça se passe d'acte, j'ai un problème avec ça. Peut-être parce qu'on a beaucoup parlé de la parole créatrice et de l'importance de la parole des actes dans le travail, dans la création. J'ai un problème avec ça. Il n'y a pas un moment donné où on dit par exemple que celui qui rejette, celui qui rejette complètement la valeur de la Torah, il n'est pas devenu mitzvot. Une fois j'avais étudié un texte avec un chien, on se disait, ou avec la prochaine surtout, on disait, pour que la Torah elle parle à quelqu'un, il faut encore qu'il accorde une valeur en fait.
Oui,
donc comment c'est pas tenable le fait de fonctionner que avec une résolution d'intérêt. Je suis d'accord sur la valeur de l'objet, à la limite sur mon rapport avec l'objet, mais là où je trouve que c'est pas satisfaisant, c'est que ça annule complètement la partie relationnelle avec l'autre.
Merci.
Et en même temps, il n'y a rien sur quoi tenir. Moi, j'arrive pas à dépasser cette histoire de me dire bon, ben à ce moment-là, si j'accepte dans mon cœur, ça a force d'obligation pour moi. Mais à ce moment-là, alors je prends la pomme, j'ai pas besoin de dire ah, je sais qu'elle vient de la chaîne, je me dis dans ma tête, je peux la voir dans ma tête, je peux la voir. Je fais pas la bride à mon fils alors. Je prends ce qui rentre dans la valeur d'achat. Pourquoi tu veux m'obliger à faire un acte? Pourquoi c'est ça qui me gêne
mais
dans l'histoire de
c'est que tout n'est pas au même niveau. Quand il faut céder quelque chose,
non,
la partie dans laquelle je tiens, qu'est-ce qui compte?
Heure,
tout mon blabla, ou finalement dans mon cœur c'est fini.
J'ai cédé. Non, c'est aussi. C'est pas que dans mon cœur.
Un homme se disputait avec sa femme pour n'importe quoi. D'accord? Maintenant, dispute sur venir, machin, etc. Et là, tu vois qui c'est, heureusement parce que c'est passé d'abord. Ouais? Ok. Ça veut dire quoi il cède? Mais d'abord dans son cœur, il dit bon, ça vaut pas la peine. Ouais? Puis après tout le reste, c'est quoi? J'en sais rien, excuse-moi, chérie. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est tout simplement entre lui. Il a pris en considération un certain nombre de choses. Mais si pour. Parce que quand je dis qu'il y en a un qui cède, ça veut dire que sinon, il faudrait supposer qu'ils vont arriver à un accord comme ça. Un sergent de prix qui ne va jamais finir. Mais on sait très bien que quand il y a deux pressions, etc., il y en a un qui cède. Et celui qui cède, il dit ça vaut pas la peine. Mais il se dit à qui à lui. Hein.
C'est un cas de dispute, mais là on parle
de céder quelque chose ici.
Non, c'est de quelque chose. D'accord, bien sûr, d'un point de vue psychologique, tout ça. Je suis d'accord, c'est un renoncement à une propriété, à un truc, à un attachement. Ça, c'est le point de vue psychologique, personnel, l'intériorité, par exemple, de l'exemple de Rastafra. Il n'y a pas que ça dans un acte de cession, acquisition, il n'y a pas que ça. Il y a d'abord le fait de l'officialiser, de le faire
réaliser,
puis la relation avec l'autre.
Mais c'est ça.
Si je dis rien.
Mais non, mais ça dépend à quel niveau, encore une fois. C'est pour ça que ça s'appelle une attrace d'autre. Je dis pas dit que moi ça me suffisait. Je dis que moi il faudrait que je le verbalise. Moi il faudrait même que j'ai des gestes spéciaux. Parce qu'en fait, au moment donné où je suis contraint de dire voilà, j'ai renoncé à l'objet, il faut que j'arrive à une sorte de terminus pour moi. Ouais, je dis mais c'est pas ça l'intérieur. C'est pas parce qu'on me met des prothèses que c'est ça l'enseignement lucinien. Oui, il faudrait que je dise, il faudrait que je parle, je fais du blabla. Et puis en fait, je rajoute. Et puis il y aura le geste final. D'accord? Parce que moi j'ai besoin de prothèses. Parce que moi je suis pas quelqu'un qui doit rêver du lavabo. Parce que moi je suis ce genre de personne dans lequel seulement une fois que j'ai fini, je me dis merde, qu'est-ce que je vais faire? Même pas bedarat quand je fais quelque chose.
Et ça c'est pas. Je sais pas, moi j'ai un problème avec le fait de dire que il y a. Bon, je comprends la notion de marmire, de me dire ok, alors Rav Safra il est. Ça dit qu'il s'oblige à des choses qu'ils ne sont pas à portée de tout un chacun. Mais à un moment donné, ce qui est peut-être tenable pour un tzaddik, ce n'est pas tenable dans le cadre d'une société avec 6 milliards d'individus. Ce n'est pas possible. D'abord parce que c'est à part Hachem, personne ne peut sonder les cœurs et personne ne peut savoir ce
non,
que...
Non, mais c'est juste, ce serait pas obédi d'un truc comme ça, c'est sûr. Bon, ce n'est pas ça la question.
Mais alors pourquoi avoir
parce que c'est
en avoir retenu presque que quelque part, ce que je retiendrai de ça, ça voudrait dire que quelque part, alors l'idéal de la cession-acquisition, ça serait ce modèle-là. Non. Ce qui me gêne, c'est qu'il n'y a pas de verbalisation, c'est-à-dire il n'y a rien qui. Voilà. Ce qui me gêne, c'est
mais
que
pourquoi, c'est
dans ma tête, il y a quand même. Non, c'est pas esthétique, c'est que on doit quand même faire une différence. Hachem, il a parlé pour le monde. Il était pas. Je sais que ça n'a rien à voir, mais il n'était pas obligé de parler.
Qui dit qu'il a parlé? Je
Torah parle comme ça.
Bon, alors vous êtes d'accord, mais on voit bien.
Il y a une bouche pour parler.
Pourquoi un homme fait la bride de son fils? Pourquoi il est obligé de faire un acte? Pourquoi les mitzvot, c'est des actes? Et pourquoi c'est pas simplement je respecte Hachem, je prends la pomme, je sais que c'est à être, ça vient d'Hachem, j'ai pas besoin de le dire. Je sais que ça vient d'Hachem, je suis un tzadik, je sais que ça vient d'Hachem. Pourquoi je m'oblige à dire la bracha et pourquoi on me dit qu'elle ne vaut que si je la sors de mes lèvres? Pourquoi il y a des moments où on doit exprimer quelque chose pour que ça ait une valeur, et là on me dit ça a une supra-valeur, il a pensé dans son cœur, ça, on se tient dessus. C'est. Non?
Ah
c'est
non,
moi qui délire.
Non, mais c'est pas ça la question. Je pense parce qu'on mélange plusieurs choses. Mais même ces choses-là, mais vraiment, parce que j'aime bien la polémique aussi, la vérité. Mais même
non, c'est pas pour polémique.
Non, non, moi
parce
j'aime bien
moi,
la
j'ai
polémique.
Un problème avec cette.
Non, même sur les brachot, attends une seconde, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que je la sorte par la bouche, pourquoi? Toi, c'est tout ça une raison. Je m'explique pourquoi. Pourquoi il faut que je la sorte par la bouche? Parce que moi, finalement, j'ai dit, je vois Hachem dans ce fruit, et je te remercie, je le pressens de mon cœur. Pourquoi faut-il que je le dise? Simple. Toi, tu supposes qu'elle est résolue. Non,
non, non, mais je suis d'accord, elle n'est pas résolue. Mais là, dans le cadre de ce qui nous intéresse, j'ai un problème parce que j'ai l'impression que je vois le côté. C'est pas pour dire du mal de Rav Safra, Rav Shalom, mais j'ai l'impression que je vois le côté marmire, mais je vois pas sur quoi on peut reposer un
mais pourquoi tu penses qu'être marmire, c'est pas la.
Je reprends
la question.
Que moi,
suppose que dans ton esprit,
mais
dans ton esprit, t'as vu
alors
comme
que
là,
on a l'impression que c'est comme ça qu'il faut faire. Ça veut dire, c'est ça qu'on devrait retenir. Par exemple, j'ai dit à quelqu'un, je suis d'accord à 100, alors je suis obligé de le faire à 100.
Ouais.
Parce que j'y ai pensé, parce que j'étais d'accord dans mon cœur.
Ouais.
Je comprends ce que ça veut dire, mais en même temps, je me dis, c'est pas possible de faire tenir une société, enfin, tout un échange comme ça, sur ça.
Faire tenir qui? Je sais pas, mais c'est pour avoir ça après. C'est quelque chose que toi, tu as envie d'explorer en toi-même comme dimension, c'est ton problème personnel. Ça n'a pas de mille à tracer doute. Mais on débatonne ça au Bédine, une chose pareille n'existe pas. Il n'y a pas, je pense que c'est clair qu'il faut une orientation au Bédine, il y a un problème.
Alors c'est quoi cet exemple avec Mara? Pourquoi
c'est
on nous fait ça quand on
tracer, ça veut dire, encore une fois, quand on parle de quelqu'un qui a une mille à tracer doute, ça signifie qu'il a compris parfaitement le kivoun, la direction du Torah, et il s'enfonce cette direction-là. Mais dis-moi,
quand David Améler résume 613 000 votes en 11 000 votes,
oui.
Ça prouve bien quand même que ça a une valeur. Sinon, c'est pas la peine. Sinon, reste dans les 613.
Ça veut dire
que moi, t'es sûr
tu
de
dis, ouais, si tu veux, tu vois, tu prends les 613,
si les 613
tu cherches dans quelle
dans
direction
11,
ça va, tu peux aller vers les 11. Dans quelle direction ça va. Mais maintenant, tu sais, peut-être que t'es tout seul à t'engager là-bas. Hein. Tu dis, tu entraînes toute ta tribu derrière toi. C'est ça que t'appelles mille à tracer d'autres. T'es en 613. Tu vois, quand je te dis 11, mais t'as vu 11, c'est pas comment dire.
Alors pourquoi on dit que par exemple les Bnei Israël, à Matan Torah, puisqu'on a parlé de Matan Torah, pourquoi il y a eu besoin de l'histoire de Purim pour dire qu'on a vraiment accepté la Torah à ce moment-là?
Ouais, c'est une bonne question ça. Ouais, je peux te régler toutes les questions.
Non, mais alors pourquoi à ce moment-là c'était. Il y a bien des moments dans la Torah.
C'est
le
Gemara qui dit parce qu'il y a un là-bas.
On accorde une valeur à l'acte. Il y a des moments dans la Torah où on accorde une valeur à l'acte.
Bien sûr, j'ai pas compris quoi.
Mais moi, ce qui me gêne, c'est qu'il y a. Comme tu sais très bien expliqué, vous avez très bien expliqué le truc.
Je vais te dire autrement. Regarde, prends la bracha. Je te demande autrement juste une
seconde. Le mec, il est prêt à mettre 200, il est prêt à mettre 300, donc il n'y a pas de lésion, il n'y a pas de.
Une seconde,
balance-moi. Tu as pris, il n'y a pas de truc, il n'y a rien. Et il s'oblige à faire ça. D'accord, il est marmire, super.
Attends.
Ça veut dire qu'il s'oblige à être un sadique, mais. On peut pas dans le cadre d'un truc comme ça dire c'est comme ça qu'il faut se comporter dans les. Ni dans les affaires, ni dans les relations interhumaines, ni rien. C'est pas tenable. On n'est pas des anges, on est des hommes. C'est...
D'accord.
Alors c'est pas tenable.
Donc tu dis c'est peut-être assez d'autres bekitzor, non? C'est ce que tu dis. Tu t'imagines quoi? C'est tout ça à notre portée, là, c'est dans nos chaussures.
Mais si on
dit
ça, c'est un enseignement.
Exactement comme tu dis, c'est pour les anges.
Ça, c'est que c'est un enseignement pour nous.
Que toi, tu regardes là-bas.
Rav Safra, c'est pas un ange.
Quoi?
Si on nous dira, raconte cette histoire-là, c'est
un embarras. Ça s'appelle Malaché Acharé. Non, mais tu crois qu'on rigole?
Si on raconte cet exemple-là, ça doit me dire quelque chose à moi. Et j'arrive pas à me dire qu'est-ce que ça peut me dire. Alors à part le pouvoir. Déjà, c'était à un niveau de se dire que la parole elle engage, que machin. Mais là, on me dit maintenant, la parole c'est même pas. C'est encore trop la parole. Rien que ce que tu penses, déjà, ça t'engage. Ça me gêne.
L'acheteur était prêt.
Non, mais c'est vrai.
L'acheteur voulait prendre au prix.
J'arrive pas. Surtout dans le cadre d'un kinyan, voilà, à la limite on parle de spiritualité, on parle de tfila, on parle de trucs. Alors bien sûr, si je me sens pas dans l'état d'esprit,
un kinyan c'est de la spiritualité.
Oui, mais là on parle de choses matérielles. À la limite, si on me dit si j'ai des mauvaises pensées, il vaut mieux pas que je fasse la mida parce que d'accord. Là, c'est... Mais là, à la limite, si j'ai pensé 100, il est prêt à mettre 200, 300. Enfin,
Je vends 300.
Mais t'as raison, personne t'a dit que t'avais tort, c'est pas ça la question, tu comprends pas, mais d'être tu crois encore une fois, quand on te dit ça, ça veut dire si tu le fais pas, faut que t'aies la culpabilité à mourir, mais non. Tu prends la mesure de la chose, je veux dire, on n'est pas, moi je suis pas obligé d'être assidu, j'ai une famille à nourrir. C'est pas ça la question. La question c'est quand même, si tu veux un jour avancer dans ta vie et faire un bureau, voilà, on t'indique une direction. Mais quoi, tu considères que c'est Mraïev? Sinon, on est complètement fou, hein, c'est une direction, c'est Mraïev.
Je vois pas l'objectif à atteindre. Je vois pas l'objectif à atteindre par rapport à.
Dover et Bédul, bah ouais. Parler vrai en son cœur. Ton cœur, il dit des choses. Mais il parle, hein. Je te jure, il parle. Tu peux l'écouter. Il est aussi dans la salle matin. Mais il parle. Écoute-le. Il dit des choses. Il fait des choses plus fondamentales que tout ce que les autres, ils papotent autour. Là, c'est la dimension, c'est la direction qui t'indique.
Mais ton cœur te dit aussi que tu as une famille à nourrir.
C'est pas le même cœur.
Et une femme à contenter.
C'est pas le même. Hein? C'est pas le même. D'accord,
et une femme gâtée et machin. Voilà. Est-ce que les femmes seraient d'accord avec ça? Ouais, tu es d'accord pour te marier avec moi avec un truc, alors c'est pas la peine de vouloir la bague de chez machin. Sinon là, tu rentres dans des trucs, c'est. Elles seront pas d'accord. C'est évident.
Tout à fait, mais c'est pour ça qu'on parle de Médracidoute. Tu crois qu'on s'engage avec une tribu dans Médracidoute? C'est un problème tout à fait personnel pour un être humain. Ça n'a aucun rapport, on n'engage ni sa famille, ni sa femme, ni ses enfants.
Cette valeur, elle est déterminée en fonction aussi de ces paramètres de.
Oui, bien sûr.
De famille, non.
Non, mais c'est encore, c'est pas en termes de modèle à succès, c'est en termes. Si on cherche où ça se joue au fond dans cette histoire de Kylian, c'est là-bas que ça se joue. Est-ce qu'on est mechayev quelqu'un à ça? Mais pas du tout, c'est ça qu'on veut dire dans le connu peut-être assez autre.
Qu'est-ce que tu te dis quand lui. Tu vas lui vendre 200, 300 alors que tu avais décidé que quand il a dit 100, tu étais d'accord. Qu'est-ce que tu vas quand même te raconter quelque chose.
Il me dit que j'ai fait une bonne affaire. Ah, qu'est-ce que je veux lui dire?
Oui, une bonne affaire. Non, c'est ça. Mais pourquoi tu dis que c'est une bonne affaire?
Bah parce que j'ai
voilà, pourquoi que ça s'appelle une bonne affaire? Une bonne affaire, c'est.
C'est gagner de l'argent.
Et si et à 100, c'était pas une bonne affaire? C'était le prix que tu voulais?
On me demande pas d'embellir les mitzvot, d'acheter le meilleur vin pour Shabbat.
Ne pars pas toujours dans toutes les directions. Qu'est-ce que tu te dis? Écoute ce que tu te dis quand tu l'as vendu à 200 ou à 300 alors que tu étais d'accord à 100.
Ouais. Vous voulez dire que c'est
qu'est-ce que tu dis quelque chose quand même?
J'ai profité
d'un malentendu.
Tu te dis quelque chose, ouais.
S'il n'y a pas eu de malentendu, j'ai répondu oui tout de suite, c'était bon. Il y a un malentendu. Chouette.
Donc tu. C'est ça, ton cœur il te dit. C'est ton cœur qui te dit ça. J'ai fait une bonne affaire. Fait une bonne affaire, ça veut dire c'est pas tout à fait glace dans ta tête. Parfait, inattaquable.
Franchement, c'est rare quand je pense ça, mais je suis pas certain d'être d'accord avec vous. Mais
c'est trop gros.
Non, c'est pas ça.
Vous voulez laisser ça au Malachi Hacha.
Non, qu'est-ce que tu te dis?
C'est la base du commerce.
Ne me raconte pas de l'histoire, la base du commerce. Bon. Qu'est-ce que toi tu te dis? On t'a expliqué, c'est Dover et Bédul. Qu'est-ce que ton cœur, il te dit à ce moment-là? Tu ne considères pas que c'est une. Que, voilà, je te dis, j'ai fait une bonne affaire. Au moins.
Dans le cas de Rav Safra, oui, parce qu'on va dire presque qu'il profite de fait involontairement, il va profiter de son silence obligatoire avec le schéma. Donc là, d'accord, je suis d'accord.
Pour l'instant, c'est celui-là qu'on a parlé.
Bon, d'accord, alors il a un peu profité de son schéma, d'accord. Donc c'est un peu. D'accord, je suis d'accord, c'est pas tout à fait là. Ça, oui. Mais derrière, c'est. Oui, parce qu'il a accepté ça, oui. Quoi?
Ça n'a rien à voir avec le schéma.
Oui, c'est.
J'ai accepté à 100. Et puis il y a eu un malentendu, l'autre il a cru que j'acceptais pas.
Donc j'en profite.
Même si tu avais éternué pendant ce temps-là, où tu t'es mouché, tu n'étais pas dans le chemin, tu étais en train de te moucher. Et lui, il ne t'a pas répondu, il ne savait pas que tu étais en train de te moucher. Alors il a manqué le prix.
Dans le cas où il propose 1000 et que j'accepterais à 100.
Quel problème? Ça dépend du Tesla. Ça dépend du prix du dénivelé.
Non, mais si j'ai pas accepté. Enfin, c'est là. J'accepterai à 100.
Pas j'accepterai. Il a accepté. Pas j'accepterai. C'est pas que je vois
les yeux. Voilà.
Avant que.
Voilà. Et que moi, c'est dans mon cœur que j'accepterais à mon
tour. Non, mais je ne parle pas de ça.
On ne parle pas de ça.
On parle de ça. D'accord.
On parle de la situation qui est décrite.
Mais ce n'est pas une situation qui est décrite.
Il est oui dans son cœur.
Mais il y a un autre cas, parce que c'est un problème, il faut des témoins.
Son cœur lui dit.
Justement, c'est pas.
C'est bien.
C'est plus compliqué que ça. Parce que c'est une déclaration.
On la vérifie ici.
Il faut que ce soit une déclaration.
Ça fonctionne.
Il y a d'autres cas où on va intervenir la pensée, ça rentre trop ça. C'est un peu difficile.
Il y a une notion de. De parler. Confusion. 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 Ça veut dire c'est une conclusion. Conclusion. Ce n'est pas.
Quand Rav Safra dit ça, le Radonich s'appuie là-dessus pour dire qu'en fait, le Kinyan, c'est presque cette façon de faire-là, c'est presque pour que moi, j'accepte de me séparer de l'objet. Donc là, je reviens à votre idée de ça me concerne à moi. Mais dans le cas où ça ne s'applique pas, c'est-à-dire si j'accepte de vendre, déjà cette idée de dire que on se dessaisit jamais, je veux dire de gaieté de cœur de quelque chose, machin, on peut très bien, je sais pas moi, avoir acheté une voiture, se dire je la kiffe pas fondamentalement, j'ai envie de m'acheter une autre, je veux la vendre. Même à la limite, tu m'en proposes 3000 euros de moins que ce qu'elle vaut sur l'Argus, je te la vends, je veux acheter une autre. Je veux acheter une Volkswagen, j'ai une Renault.
Ok, c'est une question, c'est vrai, c'est des...
Bon, alors,
les objets n'ont pas évolué pour nous.
Si derrière ça ne m'aide pas, cette façon de faire là, ne m'aide pas moi à prendre ma décision de me décider de l'objet, puisque je suis déjà dans une prise de décision, machin, alors ça n'a plus de valeur, cet exemple de Rav Safra, tu comprends ce que je veux dire ? Ça n'a plus de valeur. Moi j'avais l'impression que ce qu'on avait dit, c'est que Rav Mish, il dit ça parce qu'il te dit que en fait c'est ta relation avec l'objet, ta relation personnelle. Et que donc cette façon de faire là, c'est t'y engager dès que en fait, tu n'as pas besoin de faire l'acte à partir du moment où tu as pris la décision dans ton cœur. L'acte n'est considéré que s'il vient t'aider à prendre la décision dans ton cœur. Si la décision dans mon cœur elle est prise, je n'ai pas besoin de l'acte. Mais donc cet exemple de Rav Safra, il veut vendre l'objet, il n'a pas besoin qu'on l'aide à prendre la décision. Alors à ce moment-là, il est dans un rapport clairement marchand, puisqu'il a fixé un prix, il dit j'ai besoin de vendre un objet. À ce moment-là, il y a, comme le disait Ravanchan, il n'y a pas de problème de malhonnêteté. Oublions l'exemple du schéma. Alors à ce moment-là, il vend plus offrant, il y a quand même au marché, je veux dire. Je vais acheter une tomate, je ne suis pas obligé d'acheter la première tomate que je vois. Je peux choisir le prix, machin. Donc ça Il n'y a plus cette utilité de cette démarche de Radonich de dire l'acte de vendre, il est là que pour m'aider à prendre la décision de me dessaisir de l'objet. C'est parce que c'est basé sur un présupposé qui est que en fait j'ai toujours du mal à me dessaisir d'un objet. Pas forcément, pas tout le temps. Et comme vous avez dit à un moment donné, qui sont les gens qui donnent spontanément? Il peut y avoir des gens qui donnent spontanément. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile quand on est riche que quand on est pauvre, mais même, ça peut paraître, il y a des riches qui donnent rien, il y a des riches qui donnent beaucoup.
Mais spontanément, on ne veut rien dire. Spontanément, c'est une opération de mon esprit qui dit qu'on ne donne pas spontanément. D'abord, spontanément, ma poche, elle est fermée. Tout est hermétique. Dans mon esprit, il se produit ce qu'on avait des chikouim, ça veut dire que telle chose, finalement, je pense que oui, ça vaut la peine. Et donc, peut-être même, je peux donner gracieusement, mais parce que je pense que ça vaut la peine. Pour ça, j'ai que des balances dans mon esprit. On ne fait rien spontanément, ça veut dire au sens, ça sort comme ça, le bilan. L'argent, c'est le contraire. C'est toujours hermétiquement fermé. Avec du Zazdaka, parce que là, vraiment, ma poche, c'est bien long, on n'y rentre jamais les mains. Comment disait les. Qui pique dans les poches, moi, je ne sais plus comment ils disaient.
Les chansons, les éléphants dans les poches.
J'ai oublié, cactus, ouais, cactus, pardon. Après,
contrarier pas du tout. On a dit, on a dans notre esprit, on est chikoulim dans la mesure où on prend en considération tel aspect. Qu'on a découvert que c'était important, que ceci ou que cela. Là, on dit, ah oui. Mais je ne comprends pas, c'est pas, y a rien, c'est pas celle de la spontané ici. C'est au contraire, ça s'appelle Gomer Belibo complètement. Ça veut dire, finalement, je suis arrivé à telle conclusion et ouais, ça s'appelle vraiment Gomer Belibo. La conclusion de mon cœur, c'est ça.
Je suis allé quelques fois là-bas, je suis un peu obligé.
D'accord.
Je vais faire un autre canal au pote, je ne sais pas encore ce que je vais sur les gravures.
Ah oui, d'accord. Bon,
on
arrivera quand vous avez utilisé.
Voilà, je vais me laisser, merci à vous. Oui, c'est gentil.
Je vais chez mon frère. Non, je vais chez mon frère.
Il est avec moi ?
Non, le garçon est avec moi.
Bah attends, il y a quelqu'un pour t'emmener.
Oui, il est fou.
Tu peux le déposer ?
Je m'engage à